Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans Underscore, votre talk show IT préféré de Twitch, tous les mercredis soirs à 20h et quelques. Voilà, nos excuses. Merci de votre présence. Qu'est-ce que je vois? Oui, énorme week-end quand même, ce Z-Event, c'était incroyable. Je vous l'avoue, moi j'ai pas tout suivi, mais c'est pas grave parce qu'on a des membres du Twitch Game ce soir et un participant... Et oui, c'est notre ami Sardoche. Comment vas-tu?
Bah écoute, très très bien. Ça fait très plaisir. Ah, ça fait très plaisir d'être là.
Et ben, on est d'accord.
Je t'avoue qu'un podcast IT, c'est un régal. Moi, j'ai découvert ça il y a. Bon, je vais pas te mentir, j'ai pas découvert au tout début.
Ouais.
La com était peut-être pas.
Non, elle était peut-être pas au niveau.
Mais ça fait genre 2-3 mois que j'ai découvert et c'est un kiff vraiment d'écouter les reviews et tout.
Ça fait longtemps qu'on avait l'idée de t'avoir ici.
Ouais.
Je pense que les gens savent pas forcément que t'aimes beaucoup l'IT.
Ouais, c'est possible.
Et donc, on va pouvoir revenir sur pas mal de trucs qui te lient à ça. Vous avez quand même levé 10 millions d'euros ce week-end. C'est quand même l'événement de la décennie.
Ah ouais, c'est, ouais, 10 millions, le chiffre est beau. Hein. La milestone est franchie, là. C'est incroyable. C'est un plaisir.
Toi, personnellement, ça va? Tu te remets de tes émotions?
Bah, j'ai pris un plaisir. En fait, c'est cool parce que là, on se remet tranquille, mais tu te dis, tu verras des souvenirs de fou et tu l'oublieras pas, quoi.
C'était quoi tes milestones déjà?
Moi, ouais. Ah oui, mes goals.
Tes goals. Ouf.
J'avais des trucs un peu, oh là là. Disons que à 100 000 euros, je repostulais pour Popcorn. J'avais ça. J'avais des trucs
parce
un peu.
Parce que ce qui était atteint, du coup.
Ouais. Du coup, j'ai fait ma demande, mes excuses en live et tout. J'ai fait un truc avec, ouais, des trucs du genre 24 heures pour apprendre le coréen. J'ai prévu un truc un peu con, c'est je m'inscris au code. Dès que j'ai la date de mon passage du code. 20 heures avant, je lance un live, j'apprends le code, je vais au code, je reviens, je fais le débrief.
Mais c'est une pure idée.
C'est marrant.
C'est le speedrun du code.
C'est le code.
Speedrun, ouais, absolu. Ouais.
Parce que on a cette philosophie à la capsule sur le code, c'est qu'il y a Ajax qui a fait ça aussi. Il a vraiment pris son rendez-vous du code.
Ouais.
Avant même de d'avoir ouvert juste.
Oui, mais c'est ça, exactement.
Il y est allé, il l'a eu.
Ouais,
il avec quelques heures de tryhard.
C'est ça.
Moi j'avais été moins ambitieux, j'avais quand même pris 4-5 jours, tu vois.
Mais sinon
tu peux en fait tu peux l'avoir, quoi.
Bah oui,
c'est ça
sûr.
Qui est trop marrant.
C'est sûr.
Piège.
Bon, le permis plus dur, mais le dernier donation goal, c'était truc que je m'attendais pas du tout à l'avoir. D'autant que j'ai même pas eu de raid, c'est la communauté vraiment qui a donné à fond, ils étaient à fond pour le projet là, pour Action contre la faim, donc ça fait trop plaisir. Et du coup, ils devaient kiffer aussi l'idée, c'est bah le concert de piano du coup.
Concert de piano en live en IRL du coup.
Ouais, en IRL, ouais. Donc me forcer à faire ça en 2022, moi dans ma tête, je voyais ça pour 2024, 2025, tu vois.
Ça te fout pas une pression?
Bah ouais, du coup, je vais m'y mettre plus sérieusement parce qu'en plus les gens ont l'air de kiffer quand même quand j'en fais, mais
bah ouais, sur Popstar,
c'est là c'est du travail pour le coup. Okay.
Trop
du
bien.
Travail, donc, ouais.
Pour ceux, j'ai même pas précisé, mais le Z-Event, pour ceux qui n'étaient pas connectés à Internet ce week-end, c'est bien entendu l'événement caritatif organisé par Zerator pour Action contre la faim cette année, ça change chaque année, qui réunit des... Il y avait combien de streamers?
51
streamers qui se réunissent au même endroit pour lever des fonds. Je crois qu'ils avaient fait le calcul, c'était à 150K euros par heure.
Ouais,
c'est comme ça. Ouais,
c'est... Si tu fais un ratio de l'heure, c'est incroyable.
C'est incroyable.
Et j'ai pas présenté mon ami Justin, bien entendu.
Bonjour,
tu t'es passé dans l'émission il y a quelques temps, voilà,
il y a deux semaines,
reviens.
Ouais. Bah là, je prends la place de Sylvain en tant que...
chroniqueur, quoi. C'est
en tant que mec qui est là, qui a pas d'actu et qui est en détente, quoi. Donc,
c'est ça qui est
bonjour
beau.
À tous.
C'est simple chez nous, tu vois.
Ah ouais.
Tu viens, on passe un moment, tu reviens. Voilà.
Puis après, les
facile.
Là, puis,
on peut mentionner que tu es également streamer, bien entendu, ancien développeur.
Et joueur Zedlan, bien sûr.
Bah oui, joueur perdant Zedlan, surtout. Ouais.
Perdant Zedlan aussi, bienvenue.
Vous y étiez croisé, j'imagine.
Ouais.
Toi, tu m'as dit que t'étais allé arriver au deuxième tour, t'avais fini combien à la
semaine? J'ai perdu en demi-finale, contre les gagnants. Chaque année, j'ai perdu contre les gagnants.
Bon, ça te donne un peu de baume au cœur. le crack de GeoGuessr, bien entendu, Justin.
Ah oui.
Mais alors, je préchote parce qu'on va nous le demander, le fight contre notre intelligence artificielle de GeoGuessr, c'est pas encore pour aujourd'hui.
Non, et puis c'est gagné d'avance pour moi, donc je pense que...
Oui, pour le moment, je pense. C'est dur quand même.
À mes yeux. Bah ouais, la dernière fois, c'était facile. Hein. Mais on va travailler dur, on va vous proposer du spectacle pour une prochaine fois, promis. On a bien aimé tes tweets d'hier. Tu nous as mis archi bien.
Ah, sur...
Ouais, mais non, mais franchement, tu nous as fait trop plaisir. Tes petits tweets pour nous remercier de ta venue finalement.
Non mais c'est normal, enfin genre moi ça, je te dis, ça fait longtemps je suis et je trouve ça trop cool. Bah, c'est en fait les petites anecdotes bien. De tech et tout, souvent le problème c'est que, bon bah les gens ont tendance à essayer de, tu sais, c'est quand c'est du tout public par exemple dans Popcorn et qu'on essaie de raconter une anecdote de tech, on peut pas trop rentrer dans les détails et quand t'es un peu curieux, c'est un peu frustrant, tu vois. Et comme vous, votre public il est peut-être un peu plus initié. Bah, c'est beaucoup plus sympa, quoi.
Carrément.
Parce qu'on peut pousser un peu plus loin, là.
J'ai Sardoche dans mes viewers, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Petite actualité avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est le site d'Orelsan qui s'est mis en PLS le jour de la précommande de son nouvel album, ainsi que son prestataire, donc, de paiement, La Boulette. Il y avait, en fait, 500, ils font ça parfois, des sorties limitées, 500 exemplaires uniquement pour son nouvel album La Quête. Et ça a attiré les foules. Et forcément, bah, quand il y a un maximum de monde en même temps sur un site web, qu'est-ce qui se passe?
Bah, c'est un petit dédose, quoi.
Ouais, c'est le crash, voilà, ouais. Exactement. Toute l'infrastructure est tombée d'un coup. Et qu'est-ce qui arrive après? Évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve sur Le Bon Coin?
Oh là là, quel enfer, ça.
Dédicacé, 10 000 balles, évidemment.
Normal. Bon, c'est la classique, hein, mais bon, c'est pas.
Bah, c'est ouf, la boulette.
Hein. Ouais.
Prévoyez des petites infras, voilà, AWS. AWS, ça marche bien aussi. tout de suite, mesdames et messieurs, on va passer à la première partie de notre émission. Ce sera un source internet. Je vais vous raconter une histoire incroyable de hacking. Et juste avant, c'est le moment de vous présenter notre sponsor du jour qui s'appelle Trade Republic. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Trade Republic, mais c'est une application pour placer son argent. Il y a un truc dont on est sûr, c'est que nous, les jeunes, on est dans une mouise un petit peu concernant la retraite. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept. Et que donc nous, dans 50 ans, ça ne va pas forcément bien se passer. L'épargne, moi je ne le savais pas, j'avoue, mais l'épargne, c'est un truc qui a des rendements pourris, pété, à 0,5%, oui. Un truc comme ça. Et en fait, j'ai découvert que même tu perds de l'argent. Puisque l'inflation...
Avec l'inflation, va plus vite que l'épargne, oui, bien sûr.
Ouais. C'est des trucs qui sont évidents si tu t'intéresses, mais moi, je ne savais pas. Et donc, pour les plus informés d'entre nous, n'est-ce pas, la solution, c'est d'investir dans des startups, etc. Je sais qu'à la capsule, il y en a qui aiment bien faire ça. Moi, j'avoue...
Ou l'immobilier, tranquille.
L'immobilier, par exemple.
Ouais. Perdre.
Mais enfin, l'investissement dans les startups, c'est genre les 5%, ou même, je parle des startups, mais même 4,40, etc. C'est un 5% sur la moyenne des dizaines d'années, quoi. Donc, c'est vachement mieux. Sauf que quand tu connais rien, c'est une jungle. Tu as des applications qui vont aller prendre des petits frais cachés, etc., qui vont te promettre que tu vas devenir un trader. Non, mais on connaît. voilà, vous savez le genre de truc dont je peux le parler. L'autre côté, c'est les banques traditionnelles qui sont d'un archaïsme terrible. Ou je sais pas si vous avez déjà essayé de prendre une action aux États-Unis. Mm-hmm. Voilà, si vous avez une petite semaine devant vous, une dizaine de mails avec votre banquier. Donc, la solution, c'est l'appli Trade Republic. Vous pouvez aller essayer ça. C'est 1 euro de la transaction. Ils prônent une transparence complète, une éducation. Et voilà, essayez pas de devenir trader. Devenez un investisseur responsable. Mettez un petit peu de côté tous les mois. Ils ont une petite surprise dont je vous parle à la fin. Ils vous ont contacté notamment pour parler de sécurité. Et ça, c'est assez rare, donc il faut le souligner. Et je vais vous raconter... notamment parce que voilà, ils gèrent 6 milliards d'euros d'actifs, donc
c'est pas mal quand même.
Ouais, ils vont pas se les faire voler, quoi, ce serait dommage. Donc ils nous ont contactés pour qu'on parle d'un événement incroyable qui s'est produit il y a quelques temps, un piratage monumental.
C'est récent.
Vous allez voir, cette histoire est d'un rocambolesque terrible. C'est dans Source Internet tout de suite. Petite question d'entrée pour vous. Dans quel pays parmi les plus pauvres sur la planète se trouvent les hackers les plus réputés?
Bah, Russie, mais...
Non, Russie, mais c'est pas si
ouais,
pauvre.
Ouais, c'est pas si pauvre.
Je
ouais.
dirais Afrique, Centrafrique, un truc comme ça.
Dans le chat, on a du Nigeria, Inde...
Non, ouais, c'est vrai, les pays Vietnam. D'Afrique...
Ouais, mitigé entre la Centrafrique et l'Inde, peut-être.
Eh ben...
Et ça va
bien encore plus pauvre,
petite Colombie, non
le pays le plus enfin parmi les plus pauvres, hein, vraiment, du monde, dans lequel on trouve des cybercriminels vraiment
une île à la
classe mondiale, c'est la Corée du Nord.
Ah, sérieux?
Ah, mais oui.
Mais non.
Et oui, évidemment. La Corée du Nord est un des pays les plus pauvres du monde. Et ils ont des cybercriminels qui sont sacrément chauds.
D'accord, oui.
Pourquoi? Parce que leur stratégie, c'est d'aller récupérer des petits jeunes de 12 ans, les retirer à l'école, les plus forts en maths. Voilà, ils vont les choper à l'école. Ensuite, ils les ramènent à la capitale et ils vont les former comme des brutes pour qu'ils deviennent des cyber.
Ah, mais c'est en partenariat avec le gouvernement?
Ouais, c'est organisé par le gouvernement.
Ah, ok, d'accord, ouais, ok. Ah, parce que je me disais, une armée de c'est risqué d'être cybercriminel en Corée du Nord quand même.
Ah, oui, oui, non, pas contre leur propre.
Ok, d'accord.
Non,
non, non.
C'est organisé quand même. D'accord. Offensive vers
l'Israël. Ah, oui, la vache.
Donc, c'est la stratégie de la Corée du Nord depuis une trentaine d'années pour essayer de peser un peu dans l'ordre mondial. C'est un moyen comme un autre, voilà, pour récupérer de l'argent concrètement où ils peuvent. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que dans le source internet donc, d'aujourd'hui, on va parler d'un groupe de hacking qui s'appelle Lazarus Group, un groupe de pirates plutôt, qui sont des Coréens très très réputés, notamment pour avoir piraté Sony Pictures.
Ouais.
Si vous vous souvenez, on avait
Ouais, Lazarus, ça me vient un truc, c'est huge quand même.
Exactement, Lazarus, ils ont fait beaucoup beaucoup de bruit, notamment avec le hack de Sony Pictures, dont on pourra parler, mais une prochaine fois, je pense. Sinon, ça va faire trop long pour aujourd'hui. Donc, l'histoire se déroule en 2016. Et cette fois-ci, l'objectif, c'était d'essayer de faire un vol de combien de dollars, à votre avis?
C'est en milliards?
Un milliard.
Ouais.
Un milliard. Ils voulaient essayer de faire un coup à un milliard de dollars. Okay,
oh, c'est pas mal, hein?
On pirate quoi pour un milliard? Une banque.
Ouais.
C'était le plan. La banque du Bangladesh.
Ah oui. Oh ouais, ça me dit un truc cette histoire. C'est une dinguerie.
Il y a plusieurs étapes. Ça, c'est plusieurs temps. Ils n'ont pas réussi à avoir un milliard, mais à cause d'un tout petit détail qui est complètement dingue, que je retiens pour la fin, bien entendu. Tout commence un an plus tôt. Ok. Donc, voilà, les gens sont préventifs. Ils s'organisent minutieusement pour ce hack.
Bien sûr.
Les employés de la Bangladesh Bank reçoivent un mail d'un demandeur d'emploi qui envoie donc CV, pièce jointe, etc. Vous voyez, lettre de motivation. Vous voyez le truc venir. Il y a quelqu'un chez eux qui télécharge et ça contient en réalité un virus. Donc, grâce à ça, ils rentrent dans le système de la banque. Et de là, ils vont pouvoir se balader, pivoter, comme on dit, d'ordi en ordi, pour vraiment atteindre toutes les strates du système d'information de la banque du Bangladesh. À partir de là, à votre avis, maintenant qu'ils ont accès au système d'information, qu'ils ont accès à un coffre-fort, au coffre-fort de la banque, etc. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ah, ça, faut se faire un virement, faut.
En fait, ils font rien.
Ouais.
Ils ne font rien. Ils font les morts, ils se tapissent dans l'ombre pendant un an.
Ok.
Ils sont là, ils sont. C'est-à-dire que t'as les employés qui vont dans la banque et tout, ils ressortent, ils rentrent. Ils ne savent pas ce qui se passe, mais à chaque fois qu'ils croisent un ordi, il y a dedans la présence, tu vois, du groupe de hackers coréens.
Mais genre, ils font rien pendant un an ou ils continuent un petit peu à scouter
ils scoutent, mais ils font qu'une action. Ouais.
Vraiment, ils restent en sous-marin, quoi.
Ouais.
Leur but, c'est, tout bêtement, et t'avais la bonne intuition, de faire des demandes de virement, enfin, le jour J, ils préparent le jour J, ils vont faire des demandes de virement SWIFT à la Fed, donc qui est la réserve fédérale des États-Unis, où ils ont l'équivalent la banque du Bangladesh à l'équivalent de 1 milliard de dollars. Parce que sinon ils auraient pas pu les récupérer. Ou alors, ils auraient eu un truc vachement plus faible. Et donc, le plan, c'est d'envoyer des demandes de virement depuis, évidemment, le système d'information de la banque.
Oui, pour avoir le pass, le white.
Exactement. Ouais. Facile. Ils peuvent se faire passer pour un employé de la banque. Et donc, ça va passer crème pour la Fed qui va initier les virements. Tout est donc très, très rodé. Mais il reste un tout petit problème, c'est que les timings, enfin ce genre de truc peut se régler niveau timing. Donc ils se sont organisés, il peut y avoir des trucs de sécurité, etc. Ils se sont organisés pour faire leur attaque un jeudi. Pourquoi un jeudi? Parce que au Bangladesh, le week-end c'est le vendredi et le samedi.
Ah oui, pour que dès que ce soit la merde, il n'y ait personne sur place pour gérer le truc.
Exactement, donc le jeudi. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, le jeudi, ils peuvent faire les demandes, la Fed va. Eux, ils sont ouverts. Donc, ils vont pouvoir initier les virements. Mais le Bangladesh, eux, ils seront fermés pendant 2 jours. Et ensuite, quand potentiellement, ils vont rentrer et se rendre compte que
ça sera trop tard,
la Fed, elle, sera en week-end.
Ah mais oui, jusqu'au dimanche. Bah oui.
Ouais, c'est parfait. Oui. Le plan
donc,
est parfait.
Le plan est parfait. Donc ouais. Ça leur donne, c'est pixel, c'est incroyable. Ça leur donne une fenêtre de 5 jours où ils vont pouvoir agir.
Ça se trouve, ils ont même choisi le pays pour ça. Hein.
Ah mais c'est sûrement possible.
C'est,
quoi,
ouais. C'est totalement possible. Sauf que reste un problème. C'est qu'il y a une imprimante au 10e étage qui consigne tous les transferts de la banque sur papier. Donc vraiment, à chaque fois qu'il y a, des mouvements qui sont faits, l'imprimante envoie des trucs. C'est con, mais tu peux vraiment te faire cramer à cause d'un truc potentiellement ouais. Comme ça. Pour contrer ça, problème-solution, n'est-ce pas ? Ils ont piraté le logiciel qui gère l'imprimante pour éviter que les traces apparaissent.
Pouvoir la shutdown quand ils veulent.
Éviter que dans la liste, il y ait leurs actions qui apparaissent.
Parfait.
D'ailleurs, c'était a priori un des premiers indices côté Banque du Bangladesh qu'il y a des trucs qui se tramaient après cette longue période. C'était vraiment après un an que l'imprimante a pu éveiller des soupçons chez les premiers soupçons chez les employés. Vient ensuite le moment. Donc c'était un jeudi, choisi les 20h pour que vraiment ce soit la fin de journée. Ils avaient prévu une fenêtre où ils allaient faire un maximum donc, de virements pour aller essayer de choper 1 milliard. Ils ont mis leur plan à exécution, donc ça a marché. Tout part comme sur des roulettes. La FED a essayé de contacter la banque du Bangladesh, répond pas.
Week-end.
Ça a foutu un gros bordel à New York au Bangladesh. On a demandé au gouverneur des explications, etc. Et on lui a demandé de démissionner quand on a vu ce qui s'était produit.
Ouais.
Il rigole pas. Voilà. Et au final, ils ont, on pourrait dire c'est bon, ils ont récupéré leur milliard. Non, ils ont récupéré seulement 80 millions. Pourquoi ? Alors que tout s'est passé comme sur des roulettes a priori. Pourquoi ? Parce que, et vous allez rire, parce que vraiment c'est débile, mais c'est débile. Ils cherchaient à transférer donc de l'argent vers une banque qui était rue Jupiter, dans les Philippines. Donc dans l'adresse de la banque, il y a écrit le mot Jupiter. Mm-hmm. Sauf que Jupiter, c'est aussi le nom d'un navire iranien qui était sanctionné par les États-Unis. Et donc, quand le mot apparaît,
oh merde,
il y a des trigger warnings qui se déclenchent.
Ouais. Quoi ?
Et juste à cause de ce mot, donc, il y a une alarme sur les systèmes informatiques de la FED qui sont déclenchés. Et ils se sont rendus compte de ce qui était en train de se passer. Et du coup, les trucs devaient être faits. Les trucs devaient être faits à la main, donc parce qu'ils étaient bloqués par ça. Il y en a quelques-uns qui sont passés de l'ordre de 80 millions. Mais pas un milliard.
Ah ouais,
ça c'est imprévisible, ça jamais tu peux prévoir ce genre de
choses.
C'est
dur. Non mais, vraiment c'était à ça quoi, ah ouais. C'est ça qui est dingue.
Ouais, c'est pas mal, 80 millions.
Quoi. C'est déjà pas mal.
Ouais. Voilà,
mais ils se sont fait choper.
C'est une pocket. mais non, bien sûr que Lazarus, ils sont tranquillous, pépères chez eux, en Corée, n'est-ce pas. Donc, je voulais vous raconter cette histoire parce qu'elle était fascinante. Quoi.
Incroyable.
Mais du coup, t'en avais entendu parler ?
Ouais, j'en ai entendu parler. Sur je sais plus quelle chaîne anglaise ou quoi.
T'avais la pirouette finale.
Mais je me rappelais plus, mais je savais que c'était passé une dinguerie. Et que, ouais, ils étaient à deux doigts. Je savais que c'était un giga fade, mais je me rappelais plus de ça. Mais, en fait, je sais pas combien de pourcents des trucs sont traités manuellement, tu vois. Si c'était vraiment à ce point-là malchanceux.
Mais en fait.
S'il y a vraiment beaucoup de virements qui passent manuellement, tu vois.
Je pense que là, ils avaient quand même suffisamment préparé le truc pendant un an pour qu'il y ait.
Ouais. À mon avis, il y a eu tellement de virements différents qui ont dû passer en même temps.
Et sans l'alerte, à mon avis, vraiment, le milliard est parti.
C'est sûr et certain. Hein.
Ciao.
Oh, le plan était si bien. Il était parfait.
Que oui. Par contre, c'est abusé quand, 2016, que tu rentres dans une banque comme ça, juste que ça puisse remonter. Tu sais, il n'y a pas de sas de décompression, tu vois. C'est genre, t'as un vieil ordinateur dans l'employé, tu peux remonter au.
Ouais, alors je pense qu'ils avaient justement pris tout ce temps de préparation pour aller loin dans les strates du système d'information, quoi. Et avoir vraiment. Quand on dit
le contrôle sur tout, quoi.
Exactement. Ouais. L'admin route de tout le système d'information, ce qui a pu permettre cela. Voilà, bref. C'était cette petite histoire donc dans ce source internet. J'espère que vous l'avez que vous l'avez apprécié. Merci du coup à Trade Republic d'avoir sponsor la chronique. On les a eu au téléphone avant l'émission. Ils étaient très très cool. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Depuis ce matin, il y a une offre toute nouvelle, c'est que si vous ouvrez un compte. Ça vous prend 5 minutes sur votre téléphone, sur l'appli Trade Republic. Vous avez des actions qui vont vous offrir. Normalement, les banques, elles vous offrent du cash, etc. Je trouvais que symboliquement, c'était assez stylé d'avoir une action, votre première action peut-être, dès aujourd'hui. Voilà. Merci à eux. On passe à notre invité. C'est pour toi, Sardoche. C'est parti. On a vu au tout début on a vu ça hier sur Twitter, du coup, que tu as commencé à coder très jeune.
Ah ouais.
Je ne le savais pas, tu nous t'as mis 11 ans. Ça nous a étonné.
11-12 ans, ouais.
12 ans. Qu'est-ce qui, comment tu t'es découvert?
Ben en fait, c'est trop drôle parce que je parlais d'un truc hier qui a rien à voir, que j'avais redécouvert quelqu'un, on faisait des veines sur qui j'avais, enfin, avec qui j'étais en contact, on était potes à l'époque sur un forum. Et donc, ce forum très ancien, Chapatis.
C'est pour ça que tu t'appelles Souleymane?
Non, pas du tout.
C'est autre chose.
C'est encore autre chose. Ouais, il y a beaucoup de privés de jeux en ce moment, mais Chapatis.com, j'étais dessus, c'était un giga forum, tu sais, un peu la JVC. Ouais. Et sur ce forum, il y avait un jour un topic, apprendre à coder, tu vois, hop, site-du-zéro.com. Et du coup, bah, site-du-zéro.com, les tutos de Mathéo 21, je les ai tous faits quand j'avais genre 11-12 ans.
Sérieux?
Et donc, 12-13 ans, j'avais fait mon premier site en PHP SQL. J'ai vu les tutos JavaScript, je commençais à faire des casse-briques en C++.
Ouais.
Et ouais, donc, vers 13 ans, bah, dis-toi qu'en gros, à 13 ans, le site existe encore. Vous pouvez le détruire là, si vous voulez. J'avais fait un site pour créer des blogs. En gros, tu vois, il y avait Skyrock.com à l'époque qui était super populaire.
Ça fait WordPress avant l'heure.
Et moi, j'ai fait un site qui permettait de, faire des sites, qui permettait de faire son propre blog. Ça s'appelait chapablog.free.fr.
Attends, redis ça.
Parce que là, les gens peuvent aller checker.
Oui.
Mais dis-toi que le bouton se connecter, il y a un chapeau après le se connecter. Ok? C'est vraiment des fautes d'orthographe partout.
Quel est le nom?
Le site n'a pas bougé depuis que j'ai 13 ans, c'est chapablog.
Chapablog.free.fr. .free.fr.
Et le site, j'ai vérifié hier avant de venir, justement, il existe encore, c'est incroyable. Et dis-toi, c'était un site, j'ai créé le site pour... que les gens puissent, tu sais, mettre des couleurs, choisir le fond, machin, faire leur article et tout, mettre des photos. Et donc, c'est un peu compliqué, tu vois, quand tu débutes en, et puis c'est un bon test, tu vois, pour, gérer les bases de données, tout ça.
Normalement, tu commences par faire un blog.
Mais moi, justement, ce que je kiffais, c'était l'algorithmique, les bases de données.
Ouais, en fait. La création d'un outil ou d'un logiciel.
En fait, à 12 ans, je fais les tutos. Et, je mets en place EasyPHP à l'époque, ça s'appelait.
Ouais. Tu fais ça?
Bah, bien sûr. Évidemment.
T'as déjà monté un forum ou?
Bah, justement, ouais.
Pendant les cours, tu apprends avec EasyPHP.
Ouais. Mais du coup, j'avais MyDolphin, je crois, c'était pour SQL.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, ça marchait pas. Dès que je faisais une requête, ça marchait pas, ça me faisait péter un plomb. Et pendant 2-3 mois, j'ai pas touché. Et 3 mois plus tard, je réessaye, ça fonctionne. Et genre, j'ai un déclic, je suis en mode, putain, depuis tout ce temps, j'attendais que ça marche. Ma première requête SQL marche et je commence à faire des dingueries. J'ai envie de tout faire, tu vois, j'ai envie de faire plein de sites.
Et attends, parce que ça, du coup, c'est quand t'es très jeune, en fait, ouais, au collège, etc.
Bah, 12-13 ans, j'étais en troisième. J'ai mon bac à 15 ans.
Est-ce que c'est un peu comme moi où ça venait remplacer potentiellement ce que tes potes ils faisaient en rentrant chez eux? Moi, je sais que c'était très très gaming,
oui.
Tu vois.
Oui, mais moi, je te dis, tous les tutos de site du zéro, je les faisais. Ça allait jusqu'au truc JavaScript, à parfois les trucs de 3D. Tu sais, j'ai fait des trucs en 3D parce qu'il y avait des tutos en 3D, tu vois. En fait, je faisais tous les tutos.
Dire, en dev?
Non, je faisais, tu vois, genre SketchUp, par exemple.
Okay.
La modélisation 3D, bah, du coup, j'ai vu les tutos, je les ai faits. Tu vois, en gros, dès que j'avais rien à faire, j'apprenais un nouveau truc et tout, et ça me faisait kiffer.
T'as poncé le site du Z.
Ah oui, j'ai fait tout ce qui existait sur le site du Zéro qui était officiel.
Et moi, j'ai eu un, parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le site du zéro, c'est, enfin, je pense
Open
que
Classroom.
Vous êtes pas nombreux. Maintenant, ça s'appelle Open Classroom. Mm. D'ailleurs, ils font des campagnes, vous en avez peut-être vu dans les métros, etc., parce que c'est devenu vraiment
Tu peux carrément mettre sur ton CV que t'as la formation Open Classroom.
Et puis, ils vont bien au-delà des métiers très techniques où tu peux apprendre aussi des trucs de com ou de management et tout.
Mais à l'époque, c'est un mec tout seul. Qui s'appelle Mathéo. Qui a genre 13 ans.
Mathieu Nebra.
C'est en 99 ou 2000, il a genre 13-14 ans.
Qu'on va recevoir, j'espère, bientôt.
Ce serait incroyable. Et le gars, je pense qu'il lance une vague de développeurs, en fait.
Le gars,
il lance potentiellement des milliers, voire dizaines de milliers de développeurs en France qui aujourd'hui doivent faire des dingueries.
Je pense que dans le chat, vous me confirmerez, mais ça serait intéressant de savoir quelle est la proportion de gens qui ont commencé avec un tuto le site du zéro. Toi, t'as commencé?
J'ai commencé avec un tuto en C, site du zéro.
En C?
Ah ouais. Commencé avec le truc vraiment vénère.
Oui, voilà.
Je cherchais la merde. Je sais pas ce qui est le mieux entre commencer sur un langage gentil comme le PHP.
Je pense que ça dépend de ta personnalité.
Ou commencer avec quelque chose de beaucoup plus strict pour te forcer. Moi, je pense que le C, ça peut vite te dégoûter, tu vois. Alors
c'était
que le PHP.
C'est... Ouais.
C'est un débat.
Il y a vraiment deux écoles. Ouais. Celle dont tu viens de parler, à savoir, ça va te dégoûter, du coup, autant commencer avec un truc hyper visuel et agréable.
Ouais.
Et t'as un peu la deuxième école de, si tu comprends vraiment ce qui se passe de façon sous-jacente, donc derrière, t'as ton éducation et ta compréhension et sur des bases beaucoup plus solides pour apprendre des choses plus... Bref, c'est vraiment un débat qui nous amène très loin. Donc, au collège, tu fais plein de petits projets, etc.
Ouais.
Tu développes des trucs.
Genre, c'est con, mais par exemple, je fais du Casio basique.
Mais attends, mais j'allais te dire que moi j'ai commencé avec ça.
Bah.
Mais mon premier langage de programmation, c'est ma calculatrice.
Bah voilà, bah moi c'est Casio basique, je kiffais faire ça. Et genre dès que la prof elle faisait un truc genre on apprenait Pythagore ou le PG, calcul du PGCD, bah en fait je codais le truc sur ma calculette pour me faire les. Et en fait j'allais plus loin que ça.
C'est pas hyper drôle.
Je mettais les.
Waouh, c'était mon activité.
Non mais en fait c'est juste que en fait quand j'avais des devoirs à faire, je mettais, tu sais, je codais comme c'était toujours la même chose. Je mettais la ligne, tu sais, toutes les démonstrations, les deux chiffres sont machin, donc, et je mettais toutes les phrases que je devais recopier.
Et tu faisais en automatique.
Et après je recopiais
tout l'exercice, ok.
C'est ça.
Et parce que moi, ça me parle très très bien, parce que j'ai vraiment souvenir de mes cours à les troisième seconde où j'ai dû suivre trois cours de maths de l'année parce que vraiment j'étais en tryhard sur le Casio basique. Et mais alors moi, j'ai du coup beaucoup moins sérieux. Je faisais pas du tout des équations, mais
j'ai fait des jeux. Moi aussi, j'ai fait des jeux.
Et du coup, c'était quoi ces jeux? On va voir si on allait.
Mais en fait, j'ai fait un jeu. Alors moi, j'ai fait un jeu, mec, une dinguerie. J'ai des images, hein. J'ai des images que vous pouvez retrouver peut-être. Mais en fait, d'ailleurs, c'est trop drôle parce que dès que j'en parlais de ça, t'avais une école qui était divisée dans les commentaires de ma vidéo YouTube. 50% qui m'insultaient en mode tu l'as volé à quelqu'un, ça peut pas être toi qui l'as fait. Et d'autres qui étaient en mode bah trop cool, tu vois. Mais en fait, j'avais fait un truc de gestion immobilière. T'avais ta rue avec plein de maisons et tu pouvais upgrade les maisons et tout.
Un peu SimCity.
Ouais, mais ouais, j'avais une autre inspiration d'un jeu auquel j'avais joué. J'avais jamais fini, tu vois, mais le moteur 3D, il était là. J'avais utilisé
le moteur 3D.
Bah ouais, en fait, c'était les.
Attends, dans ta Casio.
Non, mais en fait, c'est plus simple que ça. T'inquiète pas. En fait, tu vois, il y avait un truc qui s'appelait les G.
Étonne que les gens, ils ont dit que tu l'as volé.
Ouais, mais il y avait un truc qui s'appelait les Gplot. Ouais, c'est ça.
Oui, je vois.
Et en fait, tu pouvais créer des.
Ah, trop bien.
Tu pouvais créer des modèles qui se casent. En fait, des matrices de points qui permettaient de dessiner des objets, tu vois.
Oula.
Et du coup, tu vois, ça ressemble
incroyable.
À ça. C'était pas mal quand même.
Mais c'était vraiment bien.
Ouais.
Je suis choqué.
Il y avait des terrains, tu pouvais acheter des trucs.
Que moi là, j'allais.
Mais tu sais, le plus choquant, c'est que je l'ai fait sur calculette. Je l'ai pas fait sur PC.
Mais oui.
On est d'accord.
Tu sais que j'allais ramener ma fraise en mode moi j'avais fait un 2048.
Ah c'est bien. Oui,
mais ça prenait 30 secondes entre chaque tour.
Genre tous les calculs et tout.
Mais oui, c'est ça. À chaque fois que tu appuies sur un truc, ça prenait 20 secondes à charger le suivant. Et ma masterpiece, c'était un poker, un Texas Hold'em.
Oh.
Mais seulement.
Moi j'ai fait un Uno.
J'en ai fait aussi un poker.
C'est vrai.
Ouais.
Attends, comment t'appelles ça?
Un Uno.
Oui, Uno, putain, j'ai cru que c'était un nouveau jeu.
Non, juste un Uno, en fait.
Mais du coup, j'allais être très fier de ça, mais honnêtement, ça, c'est quand même une dinguerie.
Non, mais après, le jeu est pas fini du tout. Ouais. Mais il y avait le moteur, entre guillemets, 3D, qui est pas de la 3D, tu vois.
C'est de la 2D, du coup.
Ou c'est de la 2D, mais c'est des images collées. Mais tu vois, il y a quand même l'ordre d'affirmation des images pour que ça fasse les plans, quoi.
C'est génial. Et franchement, je suis...
Non, j'étais assez fier de ça et mais ouais, c'est un truc aujourd'hui je pourrais pas me déterrer à faire ça, mais quand j'étais petit, je sais pas, je restais dans mon lit, je passais des heures à descendre les lignes et tout.
Et surtout que, alors, pour ceux qui ne savent pas,
mais on se rappelle,
coder sur une Casio,
il y a 25 variables.
Mais oui,
il y a 25 variables. Tu rajoutes R et θ, t'es très content parce que t'en as 27, tu vois, ou 28.
C'est un enfer là, surtout pour faire l'alphabet.
Mais t'avais une feuille avec R, c'est ça, A, c'est ça, B, c'est ça, pour bien se souvenir de chaque truc.
Et alors, pour ceux qui sont habitués à de la programmation moderne, il y a rien.
C'est le proche de l'assembleur.
C'est ouais, c'est ça. C'est pas si loin de l'assembleur. Il faut dire que c'est tu construis une cabane avec trois bâtons. Quoi,
non, c'est très bas niveau.
T'as pas de fonction, t'as rien. Bref, donc ça, on rentre dans des petits détails pour les développeurs qui nous écoutent. Mais donc après cette période-là d'essais, de petits projets par-ci par-là, en niveau études, tu fais des maths?
Ouais, je fais. En fait, moi, je veux faire ingénieur. Tu vois, bon, j'ai pas vraiment d'objectif dans ma vie. Hein. Je fais maths-sup. Donc je rejoins Saint-Louis.
Okay.
C'est pas Louis le Grand, faut pas confondre, c'est moins bien, mais c'est quand même une bonne prépa.
Ouais.
Et du coup après à Saint-Louis. Alors problème de Saint-Louis, c'est que je dois prendre le métro tous les matins, RER. Je mets 1h30 à y aller, 1h30 retour. Et la prépa c'est chaud quoi, de 8h-20h.
Je sais pas comment t'as pu faire honnêtement.
Bah en fait
avec
le truc c'est
non mais
en fait c'est pas ça le problème, c'est que je continue à jouer à LOL énormément. En fait j'étais accro, tu vois, à League of Legends.
Ouais.
Et donc je taffais mes DM la nuit, je dormais 2 heures par nuit quoi, vraiment 2 heures. Et donc j'étais pas très efficace en cours, je me pensais pas moins con qu'un autre parce que les jours où j'arrivais en forme, hein, j'étais vraiment en smurfing, tu vois. Genre j'étais vraiment en smurfing, le prof il posait des questions, j'étais au taquet et tout, mais 90% du temps
parce
je m'endormais.
T'aimais bien les maths, j'imagine.
J'adorais ça, et même physique et tout, sciences d'ingénieur, j'ai surkiffé.
Ouais.
Puis j'avais des très bons profs, franchement. La Saint-Louis c'était vraiment une super prépa, mais le truc c'est que je m'endormais en cours, tu vois. Vraiment, je m'endormais. Et mes profs, ils étaient en mode le pauvre et tout, il a du chemin, de la route et tout ça, alors que j'étais top 500 sur League of Legends, tu vois. Genre, c'était vraiment terrible. Et du coup, en fait, je passe quand même mes concours d'école d'ingé au bout de 2 ans. Ouais. Je fais pas 5 demi, je valide direct une école. Et je rentre, je rentre à l'ENSIE.
Ok.
C'est École Nationale Supérieure d'Informatique. Donc c'est quand même top 3 des écoles d'ingé d'informatique française, ouais. Sortie prépa, donc j'étais super content, tu vois. Et c'est des études publiques, tu vois. Donc tu payes pas 10 000 balles par mois, quoi, par an.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que...
Dans cette école, du coup, j'apprends plein de trucs, je fais des maths, je passe une licence de maths quand même, maths info.
Et là, tu te dis, mais putain, lol, c'est quand même vachement...
Ouais, en fait, je rencontre un mec, je rejoins une team e-sport, ouais. Parce qu'on a des résultats de fou, on est top 1 France à l'époque. Ouais. Donc, tu vois, l'équivalent... Tu vois, là, quand tu vois la CACORP gagner la FL, ça fait quand même un bruit de fou. Même toi, qui suis peut-être pas lol, t'as peut-être entendu parler de CACORP. Bah, en fait, nous, on était top 1 France, tu vois, pareil. Mais c'était beaucoup moins développé. Et donc on smurfait toute la scène et on était dans une team et le gars en fait en question, il avait plein de projets, il avait des idées de fou, il voulait révolutionner internet et tout. Et tu moi j'étais en mode vas-y, le pitch est bon.
T'as vu une fenêtre de
Je vais le vendre à mon directeur pour avoir une année sabbatique. Donc je lui présente le projet, c'est pas qu'un projet e-sport, c'est un projet de réseau social machin. Je lui dis je vais travailler dessus et tout, je vais développer machin et mon directeur il me fait vas-y go, tu vois. Pendant un an, je pars en full e-sport, full stream. En même temps, il y a Coro Bizarre qui, lui, à l'époque, est super connu dans le streaming. C'est le premier à faire des 3-4 000 viewers. Ouais. À l'époque, c'est pas sur Twitch, sur Dailymotion. Et il me prend sur sa plateforme. C'est-à-dire que moi, je tape des 3 000 viewers il y a 6 ans, tu vois. 7 ans. C'est énorme.
C'est fou, ouais.
Et je joue au Casio, en challenger, les mecs ils me kiffent, des fois je suis torse nu, je fais n'importe quoi, je gueule.
Ça n'a pas changé.
C'est à l'ancienne, tu vois. Non mais c'est vraiment super à l'ancienne dans mon super ancien appart. Et en fait ça perce et je gagne un peu d'argent et même plus d'argent qu'un ingénieur, tu vois. Genre je me dis je serais ingénieur dans une SS2I, je sais pas si je gagnerais autant, tu vois.
Ah, les SS2I quel enfer.
Bah oui, c'était ça surtout, ouais. Enfin je veux dire tu sortais de l'école d'ingé, t'avais une chance sur deux d'être en SS2 ici, quoi. Donc, c'était pas fou comme planning. Et je me dis, en vrai.
Attends, tu parles à potentiellement beaucoup de gens dans les SS2.
Ah, mais c'est formateur. C'est formateur, mais faut quand même le tanker, le truc, tu vois. C'est intense. Et moi, je sais pas, je suis dans un mood où.
C'est quoi une SS2I, on me demande?
C'est les entreprises. Oh, je sais pas exactement comment on définirait ça.
C'est une boîte qui embauche des ingénieurs pour les embaucher dans d'autres boîtes, quoi. C'est un intermédiaire entre un client final et l'ingénieur, quoi, en gros.
Ouais.
Globalement.
C'est juste génial, en fait. Ouais. Le Larousse, quoi.
Mais je sais pas, je me dis, ouais, en fait, c'est peut-être ma vie, c'est peut-être pas de faire des études. Et alors que moi, j'ai toujours été dans des gonds et
streaming.
Tout. Et en fait, c'est surtout pas ça, c'est surtout que je me dis, en fait, j'ai des capacités et j'ai des contacts via mon école. J'ai des mecs à qui, je me suis fait plein de potes. J'ai même des contacts avec des boîtes parce que j'ai passé des entretiens. J'ai même fait du dev pour des stages et tout. Et ça s'est bien passé, tu vois. Par exemple, j'étais à la sécurité sociale. Je leur ai fait des algorithmes.
T'étais à la sécu.
J'ai bossé à la sécu en stage pendant 3 mois. Mec, ça, c'est incroyable. Il y avait une meuf qui gérait tout le personnel de la sécu, ok? Je sais pas si j'en ai parlé, mais on s'en fout, ok? En gros, la meuf, son job, c'est de gérer les profils, de dire voilà, tu sais, elle gère les call centers. Il y a toute la gestion de ressources humaines, qui t'a fait au call center, qui est là, combien d'heures ils ont travaillé, ils ont besoin de quoi, qui a eu des congés maladie, machin, qui pose ses jours. Et en fait, il y a aussi un délire où ils doivent assigner des jobs à des gens, mais ça doit tourner de façon équitable, mais elle a fait tout à la main, et c'est pas du tout équitable, et c'est 100% de son job. Et en fait, cette meuf, je lui ai fait un logiciel qui fait tout ce qu'elle fait. Et je pense qu'actuellement, elle ne travaille plus, en fait. Elle ne travaille plus. Et genre vraiment, j'étais trop fier de moi parce que, tu sais, l'algorithme d'automatisation, faire de gérer une valeur qui monte puis descend quand il a eu le truc le plus chiant pour que ça tourne. Et moi, j'étais, mais quand je fais ça, ça me...
Si vous allez à la sécu. C'est pas impossible que si vous jetiez un petit œil là, il y a le logiciel
de travail partout. C'est très très sale. Le code est très sale, mais il fonctionne très bien.
J'en profite, il y a Gava qui te demande si tu peux te décaler un tout petit peu sur ta droite.
Ouais, pas de souci. Non mais en fait, juste le dev, ça me faisait vraiment kiffer. Mais j'avais pas l'impression d'être dépendant d'un employeur pour pouvoir en faire, tu vois. Je me disais en vrai, demain j'ai envie de travailler. Bah ouais, je me dis, est-ce que vraiment j'ai besoin d'être ingé?
Toi, tu t'es posé la question avant de finir ton ingé?
Bah, je m'étais dit, est-ce que j'ai vraiment envie de bosser pour un truc? Parce que les seuls projets qui me plaisaient vraiment, c'est les projets que je me mettais à moi-même, tu vois. Ouais. Et avoir quelqu'un qui te dit, vas-y, bah, code un bouton, mets-le en rouge avec des paillettes vertes, alors que ça n'a aucun sens, tu vois, ça me casse les couilles, j'avais pas envie de le faire.
Parce ouais,
que
je suis assez d'accord. Ça n'a aucun sens. Après, être challengé, c'est cool, tu vois.
Ouais, c'est
genre,
bien.
On me propose un défi et je vais trouver une solution, c'est trop cool.
Mais quand le projet t'intéresse, c'est bien. Quand ouais, le projet,
et quand tu peux choisir tes projets, donc au final, c'est, ça revient à être un peu en freelance. Mm. Non, par contre, moi, il y a un truc, c'est que j'avais le choix de faire une dernière année, donc à l'étranger. C'est aussi ça qui m'a bloqué pour finir mes études. Et les deux choix que j'avais choisis, c'était Université de Manchester pour faire des mathématiques appliquées et vraiment de la recherche informatique. Ou alors, Université de Copenhague, je crois. Donc là, c'était vraiment spécialement orienté deep learning, machine learning. Ouais. Donc ça, c'était un truc qui me faisait vraiment kiffer. Et je pense que t'as besoin quand même de faire un cursus pour vraiment être dedans.
Oui, surtout quand... un an, c'est pas...
Surtout quand tu veux faire tout ce qui est l'aspect mathématique derrière pour pouvoir soutenir ta recherche quand tu veux en faire vraiment sérieusement. Et là, je t'avoue que bah c'était soit j'allais à l'étranger et du coup je devais dire au revoir au streaming parce que bah dans un campus t'es pas sûr oui. de pouvoir stream et tout, c'est un peu chaud. Ou alors je give up mes études parce que de toute façon je peux pas valider mon diplôme si j'ai pas fait un an. Ouais. Et après il y en a qui ont trouvé des astuces, genre Kevin du Rire Jaune, tu
oui,
vois. Lui il a réussi à bosser dans sa propre boîte pour valider son étude.
J'avoue, j'ai bien potentiellement joué fait ça aussi.
Non mais bien joué, mais moi j'avoue que mon projet perso en tant que streamer, sachant que déjà à l'époque il y avait des best-of où je pétais des plombs sur mon ordi, ça avait pas une gueule de...
Mais
c'était
sûr.
ça avait pas une gueule de projet viable pour valider mon école, tu vois. Donc non, malheureusement, j'ai stop quoi, j'ai stop tout.
Ok. J'ai une question parce que honnêtement, alors peut-être un petit peu pour toi aussi, mais j'ai l'impression que nos parcours se ressemblent un peu. Moi, je me reconnais dans pas mal de trucs que t'as dit, et du coup, je me demande si tu partages un truc que moi j'ai un peu eu, à savoir un syndrome d'imposteur du fait de pas avoir fini, tu vois.
Ah ouais, ouais.
Genre du fait de mon plan initial, c'était de faire une école d'ingé, etc., pour être le boss du game dans l'info, un truc comme ça. Au final, je m'arrête entre-temps de ce projet-là. Et est-ce
en
que
fait,
t'as cette
sensation? Je l'ai pas du tout, parce que le plus dur, c'était la prépa et les concours. Ouais. Parce qu'après, c'est full branleur, hein, je te jure. Hein. En école d'ingé,
ouais, je confirme,
c'est suis désolé, mais ouais. Avoir son diplôme quand tu rentres en école d'ingé, faut vraiment être une merde pour pas l'avoir. Il faut faire un effort, tu vois. Faut être en mode, je ne veux pas mon diplôme, tu vois. Enfin, les gens qui disent, il a raté...
Du coup, t'as pas l'impression de devoir te justifier de pas avoir ton âge.
Non, mais en fait, les gens qui disent, il a raté son école d'ingé, ils savent même pas ce que c'est une école d'ingé ou une prépa, tu vois. Donc en fait, j'ai pas d'ego vis-à-vis de ça, parce qu'ils ont okay. même pas leur bac, tu vois. Vraiment, enfin, c'est...
Ouais, je vois.
Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je suis un peu déçu quand même d'avoir quitté ce game, parce que je kiffe ça en fait, m'intéresser et tout. Mais je pense quand même, et même mon directeur de mon école, je sais plus comment il s'appelle, mais il disait, c'est pas en école que vous allez apprendre à coder. Genre, lui-même en était conscient, on fait des cours où on vous propose des cours pour apprendre à coder, il y a des projets et tout, mais on sait très bien qu'un langage, ça s'apprend.
Tu peux t'en sortir très bien sans en fait.
Voilà, un langage, ça s'apprend chez soi, tu vois. Tu dois le prendre en main toi, se l'appréhender, machin. Et donc en fait, tous les skills finalement que j'aurais pu apprendre en prépa, en école d'ingé, c'est des trucs que je peux apprendre aujourd'hui et
du coup,
quand j'ai envie, quoi.
Ma question est évidente suivante, c'est, donc t'as pas mal de compétences de dev, etc. Aujourd'hui, dans ton emploi du temps, j'imagine que 99% ça reste ton activité quand même de streaming, quoi. Donc
je dev quasiment plus.
Avec toutes les coulisses que ça implique, donc j'imagine que t'as quand même de la technique sur la préparation de tes lives, etc. Sur la partie purement dev, est-ce que soit toi tu fais quand même un peu de dev de temps en temps, rarement, ou est-ce que tu bosses avec des devs?
Non, je bosse avec des devs. Je bosse avec un dev, ouais. Enfin, un ou deux devs. En fait, ce qui est bien, c'est que, enfin, franchement, avoir fait un peu de dev dans sa vie, c'est super important, parce que quand tu travailles avec des devs, tu sais directement ce qu'il est possible de faire ou pas. Donc déjà, tu te fais pas avoir. Parce que il va te dire c'est impossible.
Ça prend 3 mois.
Et puis même en fait des fois je peux avoir une idée.
Oula.
c'est 10 000 balles. Ça. non, je vais avoir des idées en fait que je vais pouvoir lui proposer et du coup il aura pas besoin de réfléchir à comment il va le mettre en place. Et donc dans la façon où je vais présenter le projet, ça gagne énormément de temps. Donc ça c'est trop cool. Mais ouais, je dev plus parce que bah déjà je suis pas à jour sur les technos. Enfin moi je veux dire je me suis arrêté. J'ai fait de l'Ajax un peu. Tu vois c'est peut-être le dernier langage que j'ai fait. Tu vois. De l'Ajax, j'ai dit de l'Ajax, du Ruby on Rails, pardon, excusez-moi. du Ruby on Rails, c'est le dernier langage que j'ai fait, tu vois.
Ou alors, c'est pour laver ta...
mais j'ai fait, il y a... C'est le... Tu vois, genre, il y a tellement de frameworks de fou qui sont sortis, les Nuxt, les Next et tout.
Ah, mais tu suis un peu comme...
Bah oui, quand même. Mais genre, je n'ai pas du tout utilisé ces langages dans ma vie et ça me frustre.
Mais t'as quand même une appétence qui fait que tu suis un peu de loin.
Ouais, bien sûr. Mais je m'intéresse à comment on connaît mes trucs aussi. Mais genre, me jeter dans un code source, ça me gardait un peu...
Ces développeurs, très concrètement, est-ce que tu as potentiellement un exemple ou deux de projets que tu as actuellement? Tu m'as parlé de potentiellement d'extension.
Ouais, ouais. Alors, bah, truc con là que je vais faire, c'est, ça c'est marrant. Tu vois, je vais partir en Corée et moi j'en ai marre de mon chat des fois qui me raconte leur vie à me dire oui, t'as mal joué sur cette action et tout. Donc maintenant, je vais mettre en place un système où je vais potentiellement récupérer, enfin permettre aux gens de lier leur compte Twitch à leur compte League of Legends pour savoir leur Elo, leur rang sur le jeu. Voilà. Donc ça va me permettre par exemple de pouvoir taper, je sais pas, point exclamation Elo, le pseudo du mec dans le chat pour savoir qu'il est bronze 2. Ou alors par exemple tout simplement de permaban tous ceux qui osent parler dans mon chat à un moment T s'ils ne sont pas au-dessus d'un certain rang, tu vois. Tout simplement, ce genre de truc, tu vois. Ça c'est cool.
C'est génial.
Voilà. Donc ça c'est le genre d'idée sympa qui peut être mis en place pour s'amuser un peu.
T'as vraiment une hiérarchie, tu vois, un système hiérarchique dans le
chat. D'où le rapport avec la Corée, j'imagine.
Voilà, donc ça, c'est le genre de truc. Non, mais sinon, un projet beaucoup plus sérieux, et là, qui me... C'est vraiment, je pense... Enfin, là, le problème, c'est dans ton chat, t'as des mecs qui peuvent faire ça. Donc là, je vais peut-être pouvoir me faire voler mon projet.
Mais
c'est pas très grave.
Tu peux jamais voler ton... Si c'est un bon projet que t'as les... Non, mec, tu as toutes les clés pour le faire.
Non, mais en fait, il est déjà fait. Je le lance bientôt et j'attends mon déménagement, mais bon, je peux en parler quand même. Allez, bah, c'est pas grave.
Tu gères.
Mais en gros, on est sur un.
Tout le monde est content.
On est sur un projet ASMR. Moi, l'ASMR, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Bon, vous allez voir que même si vous aimez pas l'ASMR, ça va vous intéresser. Donc, l'ASMR, c'est.
C'est-à-dire, tu sais, ici, on n'est pas forcément au courant de tout. C'est quoi l'ASMR?
Et toi, t'as une voix ASMR, par exemple?
Moi, j'ai une voix ASMR.
Ah oui, t'as une voix très ASMR.
J'ai une voix ASMR.
Ah oui, je pense que c'est une partie de ton succès, tu veux tout. Ah non, vraiment. J'en parlais juste avant. La prosodie, pour moi, c'est 70% du buzz sur YouTube. C'est-à-dire, en gros, l'intérêt de ce que tu dis, c'est important. Mais si ta voix est agréable à entendre, les gens, ils mettront ça en fond. Et tu vois, ils continueront d'écouter, même s'ils bon. Ils écoutent pas, tu vois.
Ben, je vois du plus, hein, dans le chat.
Bon. Mais du coup,
je suis ravi.
Non, mais vraiment, c'était, ta voix est dans les top 1%, je pense.
C'est beau.
Je te le dis parce que je suis expert en ça. Mais du coup, non, mais vraiment, l'ASMR, c'est le fait de chuchoter, de pouvoir endormir les gens, leur proposer, ouais, un truc agréable à écouter quand ils veulent s'endormir. Okay. Mais le problème de ça, c'est que si c'est compressé par YouTube et que le format MP3, il est pourri, l'oreille s'en rend compte. Elle sent que le spectre de ce qu'on écoute est compressé dans une portion trop petite pour que ce soit... Tu sentes que tes oreilles
t'as pas toute l'amplitude.
Exactement.
De la voix.
Exactement. Il manque l'amplitude de la voix. Et c'est pas aussi agréable que ça pourrait l'être. Moi, pour la petite anecdote, j'avais déjà enregistré un ASMR pour tester. J'avais mis le format max. Donc, pour te donner une idée, 10 minutes d'audio, ça pesait 12 gigas. C'est bon?
Ah oui. Oh, putain.
Ok. Bon.
Oui, mais alors là, c'est quoi le... Réalistiquement, c'est quoi vraiment le niveau de détail ou qui est audible par l'homme?
En gros, bon, le niveau de détail, c'est que je mettais le truc en compressé version YouTube dans mes oreilles, ça me faisait rien. Et ma propre voix, m'a détendu, mais j'étais, je te jure, après j'ai un bon casque, tu vois. Mais le fichier 12 gigas, j'avais entendu parce que j'avais chuchoté. J'étais en mode, c'est ma voix, qu'est-ce qu'elle est, je suis si heureux, tu vois. J'étais comme ça et c'était trop agréable. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai une révélation, je me suis dit, en fait, vraiment, la raison pour laquelle je ne fais plus d'ASMR et les gens sont full tilt parce que les gens qui fait, tu vois, c'est qu'en fait, j'ai tellement été choqué par la qualité, la différence de qualité, que du coup, j'étais en mode, je ne veux plus jamais faire d'ASMR tant que je suis pas capable de fournir cette expérience à mes viewers, ok?
Ok.
Et du coup, bah, YouTube, forcément, c'est une plateforme qui ne permet pas ça, mais d'un autre côté, tu peux pas demander aux gens d'aller sur une plateforme, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai eu comme idée?
Parce que ça peut exister des plateformes. Qui
oui,
ont
bien
très
sûr,
bon son,
très
etc.
facilement, très facilement.
Mais tu veux pas faire
mais
que
il faut
les gens
quand même,
YouTube.
Faut quand même que les gens puissent être recommandés en allant voir d'autres ASMRtistes ouais. et que tu fasses de l'acquisition
oui,
via YouTube.
Participer à l'algorithme.
Sinon,
pour te dire si tu peux te reculer tout de suite.
Ouais,
non, mais en fait, ce setup est un peu
t'inquiète.
Un setup du bled. il faut le dire. Où,
t'inquiète.
Où on a des trucs.
Mais du coup, je voulais fournir cette même expérience à vivre et en restant sur YouTube. Et quelle idée j'ai eue? Je me suis dit, ok. Et tu vois, là, c'est là l'intérêt d'être dev, c'est que j'imagine le truc. Donc je
et
me suis dit
tu mets pas ton plan en action, mais ça te permet d'avoir l'intuition que c'est possible.
C'est possible. Ouais. Et l'intuition c'était que est-ce que je pourrais pas détecter. En fait j'avais déjà fait un en fait dans mon add-on qui permet de savoir quand je suis en live, il y a un peu tous les trucs que je fourre, tous les trucs que je code, tu vois. Notamment une extension proxy pour aller sur mon site uniquement américain. Tu vois j'ai un moi les gens je vois des pubs pour des VPN souvent. Bon bah moi je sais combien ça coûte un VPN et ça me fait toujours marrer le prix des VPN à soi-disant moins 90%, mais en fait ça leur coûte 500 fois moins, mais tranquille. Donc tu vois j'ai un VPN qui est inclus dans mon proxy pour aller sur le site de musique qui est américain only, tu vois.
Ok.
Donc moi j'écoute ma musique sur pandora.com qui est un site américain
ouais.
et les gens peuvent pas aller sur le site. Mais s'ils ont téléchargé mon extension, ils peuvent y aller.
Pour eux.
Voilà, il y a le proxy qui est intégré dedans.
C'est quoi ce niveau de trahison.
Voilà. Et d'ailleurs, quand il y a trop de gens connectés sur le proxy, il y a une connexion Twitch et ça prend que les subs. Tu vois? Bon, c'est le genre de truc. Mais là où c'est un peu drôle, c'est que du coup, ce même extension pourrait permettre, elle détecte que la page c'est pandora.com. Oui. Pour lancer le proxy sur cette page, ça va pas lancer sur toutes les pages, tu vois. Donc, vu qu'elle détecte cette variable, je me dis, ok, donc, il pourrait très bien détecter une URL YouTube particulière. Donc, avoir une whitelist d'URL YouTube qu'on a sur notre serveur et qui pourrait être potentiellement détectée. Donc, par exemple, toutes mes vidéos ASMR et potentiellement d'autres vidéos ASMR ou même potentiellement des vidéos de musique.
Okay. Donc, attends, je récapitule. S'il y a un utilisateur
qui se connecte sur une de ces pages.
Je veux écouter du ASMR de Sardoche.
Voilà.
Il se rend sur YouTube,
ouais,
avec ton extension,
avec mon extension
sur une de tes vidéos qui est détectée par ton extension, voilà, comme étant une vidéo ASMR.
Et là, qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui se passe?
Et ben en fait, l'extension détecte que c'est une vidéo et en fait, il va couper le son de la vidéo YouTube et la remplacer par un fichier son qui va aller chercher directement sur nos serveurs.
Et donc, va synchroniser.
Et donc et on a réussi à faire ça. Il va réussir à synchroniser à la frame le son que nous on a décidé de mettre.
Le mec, il s'est avec dit, bon, la le vidéo. Son de YouTube. Est-ce que c'est pas
gros, c'est vraiment... Mais en fait, je me dis à terme, cette extension, elle est pas illégale. Et demain, toutes les personnes qui veulent améliorer le son de leur vidéo, ils auront juste à aller sur nos serveurs et à dire, j'aimerais améliorer le son de ma vidéo, j'upload mon fichier son de cette vidéo, tu fais le lien entre les deux. Et en fait, demain, tu vois, on pourra avoir un YouTube enhanced avec que
crack,
des qualités de...
C'est très fort. 200 IQ.
Et l'idée est bonne, tu vois.
On dirait que le chat apprécie en tout cas.
Sauf que moi, je vais le sortir pour juste mes vidéos ASMR parce que j'ai mon problème.
Oui.
Mais en vrai, si j'étais vraiment un mec qui veut des thunes, le concept est quand même intéressant.
Mais alors, tu dois faire l'hébergement du coup des fichiers, etc. Mais voilà, c'est vrai que de l'hébergement audio, c'est quand même un peu moins compliqué que si tu voulais remplacer une.
Ouais. Non, mais c'est ça.
C'est fou.
Donc l'idée.
T'as une application pour tes vidéos.
Ah oui. Moi, je fais pas de vidéos, moi.
T'as fait un rediff de live?
Si, mais je m'en fous un peu de la qualité. Okay. De.
T'as pas. Tu veux pas du 300.
du 3000 kbps.
Donc voilà. Du coup, l'idée est cool et ouais, on va pouvoir mettre des fichiers FLAC carrément.
Très haute qualité, c'est
ouais,
pas mal ça. Le mec cool. Remplace le son de YouTube. Non mais
ouais.
En vrai, il fallait y penser.
Donc on va le mettre en place bientôt. Voilà, je l'ai teasé. J'aime bien parler des trucs avant de les sortir, c'est un peu con mais pour le coup, je suis convaincu que bah c'est fonctionnel. On va essayer de le mettre en place pour ma prochaine vidéo. Donc dès que je déménage, je fais une vidéo ASMR et ça sera normalement comme ça.
Mais c'était pas trop chiant de synchroniser le fichier avec la vidéo parce que ça dépend des connexions.
Non parce
genre.
Que en
le,
fait
le buffering, il est pas
identique. Il peut grab Non, bah non. Ouais. Il peut grab où il en est dans la vidéo. Tu sais, c'est marqué 003 sur machin.
Je pense que t'as pas à savoir quel est l'état du réseau de la personne.
Ouais.
Juste, t'es dans la page, t'es l'extension. Tu dis, ah bah tiens, je vais choper la vidéo YouTube. T'es à quelle seconde? Et après, tu regardes un peu les événements, quand est-ce que ça se déclenche.
Et quand ça met play pause, bah, je pense qu'il va essayer de recapter. Il va arrêter et recapter.
Ça marche. Ça fonctionne.
C'est sûr que ça fonctionne.
Ça marche. Ça me fait penser que GeoGuessr.
Ouais.
Ça se passe dans une page web.
Ouais.
T'as pas pensé à des trucs à faire avec des extensions?
Ah, mais si, de ouf. Si, bah, j'ai fait des trucs. Genre, le Battle Royale, je l'avais codé avant qu'il existe sur le site.
Ah ouais?
Ouais.
Sérieux?
Il y avait plein de trucs. J'avais mis de la ranked en plus avec des extensions et tout. Bah, si, bien sûr.
C'est trop bien.
Avec des systèmes d'event, avec systèmes de, des trucs comme ça. Ouais.
Mais je suis naïf, en fait. Parce que il a tout fait.
Non,
et du coup, tu proposais ça avec, à ta communauté de participer à des ranked.
C'est ça.
Alors que le site était
juste, bah voilà, c'était Street View, tu cliques, tu y es, et c'est terminé quoi.
Donc, ça c'était le truc lié au GDoc ou c'était encore autre chose?
Non, c'est encore autre chose.
À un moment, il y avait un GDoc avec des classements, je me rappelle.
Ouais. Non, c'était encore autre chose.
Putain, j'essaie de m'imaginer un peu techniquement, et à quel point c'est facile de faire ça.
C'est pas compliqué. En fait, les API de GeoGuessr, elles sont un peu à chier.
Ouais.
C'est-à-dire que t'as juste à faire F12 console, tu vois toutes les requêtes qui partent et qui rentrent.
Ouais.
T'as juste à faire du mimétisme quoi, dans ton code à toi.
Parce que tu remplaces quand même un serveur multijoueur d'un site.
Alors, c'est de la ranked, mais c'est pas de la ranked où tout le monde joue en même temps.
Ah.
C'est-à-dire que t'as un classement, okay. T'as un système d'élo, enfin, okay, un truc comme
c'est
ça.
C'est un entre-deux qui.
C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de multijoueur.
Ouais, grave stylé.
Mais c'était cool, c'était vachement cool.
Je ne savais pas.
Ça n'a pas duré longtemps, mais.
Ouais, très cool.
Un peu la flemme de faire de la maintenance.
Salut! Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Est-ce que tu te souviens, mon ami, quelle est la première occasion où on a discuté, tous les deux?
Ah, c'était Shadow, je crois.
C'était ça.
C'était Shadow?
Oui. Je sais pas si tout le monde connaît le.
Mais je me rappelle plus exactement. On s'est pas croisé
non,
sur
pas
place.
Croisé. On a discuté en DM.
On a discuté après de.
Je venais de sortir une vidéo que j'ai fait sur Shadow.
Ah oui, 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 c'est bon. Et c'est sûr, je savais que c'était ça.
Et du coup, je vois Dame de Sardoche. Et je me souviens, on a un peu discuté sur le service, etc. Pour rappeler, recontextualiser un petit peu aux gens, il y avait eu un. C'était pas un drama, mais il y avait une petite affaire autour de. Des créateurs qui avaient fait des trucs avec Shadow de toi. Est-ce que tu peux nous résumer un tout petit peu ce qui s'était passé?
Il y avait plein de pubs sur Shadow. Alors déjà, Shadow, c'était quoi déjà? C'était un service de PC décentralisé. C'est-à-dire qu'en gros, ça, on achetait un boîtier qui était juste un intermédiaire proxy entre nous et des serveurs. Et c'était les serveurs qui possédaient la puissance de calcul, donc la carte graphique, le processeur, machin. Et l'idée, c'était que si demain des nouveaux processeurs, nouvelles cartes graphiques sortent, bah, ils ont juste à mettre à jour le truc et nous, on garde notre boîtier et tout est pareil. Juste, voilà, le seul problème, c'est la latence potentiellement. Ils avaient mis en place des giga-algorithmes pour permettre d'avoir une latence le plus faible possible. Donc le projet était quand même sur le papier assez intéressant en termes de tech. Et je crois qu'ils avaient des giga-cracks en mathématiques, en encodage pour arriver à faire vraiment insane.
T'étais allé chez eux, c'est pour ça que tu...
Moi, j'étais allé... Alors moi, comme plein de gens, comme j'étais un ami de quelqu'un qui avait investi dans Shadow... Il voulait me faire investir dedans. Alors moi, pour la petite anecdote, j'ai jamais investi dans rien.
C'était une particularité d'ailleurs de cette boîte, c'était d'essayer d'intéresser au capital des créateurs de contenu, des influenceurs.
Et moi, je leur avais dit, en gros, moi, je suis prêt à faire du consulting pour vous, je vais vous donner des conseils pour viser un public comme le mien, qui est un public de... Parce qu'en fait, si t'arrives à avoir les gens qui font de l'e-sport tryhard et qui sont méticuleux sur la frame, alors t'as tout gagné avec leur truc. C'était ça leur objectif.
Ils se disaient, on va essayer de plaire aux plus exigeants utilisateurs d'ordi, qui sont les gamers.
Malheureusement, les gars étaient convaincus d'avoir un truc ultime où on n'était pas capable de voir la différence ils étaient convaincus d'avoir fait un truc où on voyait pas la différence de frame entre un ordinateur normal et leur truc, sauf qu'ils ont oublié que je jouais au sous, quoi. C'est le gros problème qu'ils avaient eu. C'est que même si leur truc était objectivement très qualitatif, moi je suis à, dis-toi que pendant 5 ans j'avais un PC en PS2, un clavier en PS2
qui est donc une très vieille connectique,
parce qu'en fait c'était beaucoup 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 moins de latence qu'un clavier USB. C'est-à-dire que j'avais un adaptateur USB PS2.
Ah d'accord.
Ouais, pour revenir sur, alors j'avais un clavier moderne, un truc custom à 1000 balles, mon clavier de fou, mais je le branchais en PS2 et d'ailleurs j'étais très déçu de voir que ma dernière carte mère elle avait pas de PS2 et je pense que mon prochain PC, je me reprends une caisse PS2 pour mettre ça, parce que je veux, quand j'appuie sur une touche, ça sort direct et que ça passe pas par le processeur et pas par le logiciel, tu vois.
Parce qu'effectivement, ça faisait partie du débat justement, c'est que moi quand j'en discutais, il disait que par exemple l'œil humain, on est de base habitué à 100 millisecondes, je crois, de délai ou quelque chose comme ça entre
la souris
et ce qui se passe en vrai, et que en fait du coup eux, ils venaient rajouter suffisamment peu pour que personne puisse s'en rendre compte.
En vrai, c'était
sauf toi.
Alors déjà, le problème, c'est que ça dépend des connexions, donc ça dépend des endroits. Pour qu'ils puissent vraiment arriver à ce résultat, fallait qu'ils aient assez de serveurs répartis dans assez d'endroits dans France, pour que n'importe où tu sois en France, t'aies pas un chemin assez long à faire. Voilà, mais bon, l'idée est super bonne, mais en fait, j'étais en mode, ouais, mais un mec qui veut un truc qualitatif...
Il peut pas faire utiliser ça. T'avais essayé Shadow ou pas?
Bah, j'étais un client de Shadow, et même moi qui suis pas un gros tryharder de jeux genre Ozu, je la voyais la différence. Je jouais beaucoup à CSGO, et la première partie, la première game que j'ai fait sur CSGO, c'était injouable.
Ouais,
j'avais l'impression d'avoir 30 kilos dans la main.
Jeux-là, CSGO ou Ozu.
Non, parce qu'on rappelle que l'image...
À 20 millisecondes près, quoi.
L'image, elle est fabriquée sur un serveur. C'est pas genre, on nous voit tirer en local et plus tard ça tire sur serveur.
C'est
l'image arrive depuis un serveur, comme si on regardait un stream.
Ah ouais.
C'est exactement ça. Donc, c'est une vidéo à distance.
Donc en vrai, le fait déjà qu'on puisse jouer à CSGO, c'est un exploit technique absolument titanesque. Il faut le reconnaître.
Ouais.
Mais moi, j'étais convaincu que il fallait qu'on ait une fibre. En fait, il aurait fallu que de bout en bout ce soit fibré. Genre, que ça arrive dans mon PC avec un câble fibre, tu vois, genre, je sais pas.
Ce qui est en train de se développer.
Oui, mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis dans la recherche ultime. Après, ça dépend des gens, tu vois, mais moi, j'étais dans ce délire de partout où je peux gagner de la milliseconde, je veux la gagner, tu vois.
Du coup, c'est
une milliseconde rajoutée, forcément.
Et sur la partie drama, parce que ça fait un peu longtemps. Mais je me souviens qu'il y avait eu un peu de drama. C'était quoi?
Je me rappelle plus trop les dramas. Bah, les dramas qu'il y avait eu, c'était... Ah non, mais oui, mais il y avait eu cette vidéo avec le gars qui jouait sur son téléphone et genre... ça correspondait pas du tout et il y avait eu plein de youtubeurs qui étaient sponsorisés. Ouais, c'était lourd, c'était lourd. Ouais, tout le monde a fait des sponsors sur le truc et c'est moi ce qui m'avait rendu ouf, c'était que c'était la révolution en mode faut suivre le train parce qu'après c'est tout le monde va utiliser Shadow. Bah après c'était très agressif comme communication. Et moi j'étais blasé, j'étais en mode mais non, ça ne marchera pas en fait, tu vois. Je trouvais ça incroyable pour des casus. Je m'imaginais le
mais
gars.
Ce qui s'est passé après en fait, c'est que le côté casus ça a pris.
Bah oui.
Côté
mais ils ont essayé de le vendre, ils ont essayé de le vendre au tryharder. Mais après l'idée de vouloir vendre au tryharder pour prouver que ça marche pour tout le monde, oui. Mais dans
derrière,
la communication
on a eu Stadia,
non,
on a eu Microsoft. Très
moi là ce que j'imaginais tu vois c'était le gars dans son salon, il a son rétroprojecteur avec son giga écran sur son mur, il se fait une partie de Assassin's Creed Odyssey, tu vois, le jeu où tu t'en fous d'avoir un peu plus de latence ou quoi, mais là c'est insane, t'as une qualité de fou, ça marche super, tu peux jouer n'importe où, t'as ton petit boîtier, il chauffe pas machin, ça va sur des serveurs insane. Mais pourquoi ils ont pas comme sur ça et pourquoi surtout ils ont essayé de le mettre en avant pour les tryharders et tout, j'étais en mode mais non, mais
des échos parce que nous on n'a pas vécu. Alors il faut dire qu'on passe beaucoup de temps au travail, donc c'est presque vécu, mais on était dans les anciens locaux de Shadow, etc.
Et toi, t'as investi sur Shadow?
Non, moi j'ai jamais.
Ah, t'as jamais investi?
J'ai jamais eu de billes.
Ah, ok, j'ai cru que t'avais investi, moi.
Non.
Ok.
Mais par contre, je peux te dire, j'ai monté une boîte avec quelqu'un qui. Avec Jean, qui est un ancien chez Shadow, et toute l'équipe, c'était mes voisins, donc ils étaient juste à côté.
D'accord.
Forcément, j'avais les trucs de l'interne. Et je me souviens très bien de cette. De cette époque-là où il y avait eu le drama, et du coup ils avaient essayé de ils avaient joué même un peu dessus en com, je sais pas si tu te souviens, ils avaient fait une vidéo réponse à Sardoche, je crois, où il y avait Victor qui
non mais en fait oui, je les avais trash talk et lui était venu, il m'avait dit ouais est-ce que tu veux on t'invite tu voir si tu vois la différence entre
t'y étais allé ou pas.
Ben ouais, j'étais allé, mais ils m'avaient montré leur truc et je me rappelle, ça m'avait choqué, il y avait une petite salle, on aurait dit une salle de colle de prépa, avec bon c'est pas pour stéréotyper, mais il y avait 3 asiatiques qui était devant des tableaux et qui écrivait des giga-équations. J'étais là, trop stylé, tu vois. J'étais chaud, j'étais en mode trop stylé.
Donc t'avais bien aimé.
J'avais rencontré le créateur et j'avais...
Et tu pourrais te dire, après, une petite, entre guillemets, altercation sur les réseaux sociaux.
Oui, bah oui, non mais, si bah non, mais ils avaient super bien réagi au drama. Et bah ouais, après, ils avaient essayé de me faire investir.
Ouais.
Et moi, j'étais en mode, mais en fait, moi, j'étais direct, j'étais en mode, votre projet, j'y crois de fou. Mais pas pour moi. Pas pour mon profil.
Okay.
Mon profil, il est prêt à mettre 1000 euros de plus pour gagner une milliseconde, même si je ne la ressentirai jamais.
Ouais,
parce qu'une milliseconde plus une milliseconde plus une milliseconde, à la fin, je vais ressentir.
Okay.
Et
je me souviens plus, parce que après, du coup, t'as été encore un peu virulent. Je me rappelle plus trop des détails.
Je suis souvent virulent après.
Ok. Très intéressant. Bon, non, mais comme ça, c'est pour ceux qui avaient pas un petit peu les dessous de.
Mais
de
du coup, ouais, Shadow, rip, quoi. Enfin, c'est pas vraiment.
Shadow
rip,
qui renaît de ses cendres. On attend un peu d'avoir les nouvelles, voir.
Oui, il y a une petite campagne de com, là. 5000 abonnements.
Ouais,
ça remonte
tranquille.
Non, mais il y a de l'avenir, c'est sûr.
Voilà, à voir ce que ça va donner, ça m'étonnerait que ça ne devienne rien.
Sachant qu'ils sont pas dans une logique de se faire racheter, ils veulent vraiment conquérir.
Maintenant, c'est Octave Octave Klaba qui, le boss de OVH qui est derrière ce projet.
Ouais.
Mais voilà,
c'était cool Shadow. Hein. Bah, j'ai fait mes premiers streams sur Shadow. Hein.
Mais
parce que moi, j'avais pas de connexion. J'avais pas le PC nécessaire pour streamer. Ouais. Et puis,
ça a toujours été un peu en mode bêta test, quoi.
Ah ouais, bah, c'est ça.
Mais c'était pas produit fini. Ça m'étonne un peu que ça le devienne. Et nous, on suit ça de très près, bien entendu. On parlait aussi d'entrepreneuriat, du fait d'investir potentiellement.
Parce que j'ai dit que j'avais jamais investi sauf dans un truc.
Et c'est quoi?
Et là, on a encore un lien. C'est fou qu'il y a que des trucs où on a des liens. Mais en fait, le seul truc dans lequel j'ai investi dans ma vie, parce que j'aime pas tout ce qui est spéculatif, déjà, je vais revenir très rapidement sur ça.
Ouais.
Moi, le Bitcoin, par exemple, tout ça.
Du trading.
Je suis désolé pour ton partenaire, mais.
Non, justement.
Je ne fais pas trop de trading. Ouais, j'ai déjà investi dans la pierre, tu vois, dans l'immobilier. Mais, me dire que du jour au lendemain, par exemple, avec le Bitcoin ou avec des actions.
Il dit Bitcoin maxi.
Ouais,
vous
du coup.
Pas dans la même team, visiblement.
Ouais, c'est ça. En gros, tu vois, investir dans le Bitcoin et du jour au lendemain me retrouver avec énormément d'argent que j'aurais pas l'impression d'avoir mérité. Et c'est là où.
Ah, c'est sur cet aspect, c'est marrant parce que les gens qui aiment pas la spéculation, c'est plus pour l'aspect instable.
Bah non, parce que non, parce que l'aspect instable, si tu joues sur plusieurs tableaux différents, c'est des statistiques, c'est de la variance. Tu vois, t'as une espérance de gain positif sur plein de tableaux, ta variance, tu peux la choisir.
Mais toi, non.
Bah en fait, moi, en plus, j'ai fait une école de stats, donc je suis calé en statistiques. Tu vois, j'arrive à comprendre tout ça et. Mais en fait, juste.
Mais tu ne veux pas gagner d'argent. Tu n'aimes pas l'argent.
J'aime pas gagner de l'argent sans avoir le sentiment palpable d'avoir travaillé pour ça.
Oui, tu suis pour l'argent, quoi.
Ouais, j'aime bien le fait de streamer, de produire quelque chose.
C'est potentiellement un luxe que tu as maintenant.
Oui, c'est un luxe que j'aime, mais justement, en fait, tu vois, imagine demain je gagne le loto.
Ouais.
Ça met en péril tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que demain je veux faire un stream, ce sera plus un stream pour gagner de l'argent, tu vois. Ce sera plus, alors, de là à dire que je stream pour gagner de l'argent, non. Mais il y a ce côté aussi où je grind.
Ça fait partie de ta motivation.
Depuis des années, je grind pour arriver à un objectif. Si cet objectif, je l'atteins différemment que par le chemin que je me suis fixé toute ma vie, ça me rendrait trop triste.
Mais tu sais que c'est une thèse que j'ai jamais entendue, honnêtement.
Ouais.
Mais c'est hyper intéressant.
Non, parce
Mais donc, t'avais investi, du coup, quand même chez OK Media.
J'ai investi chez OK Media. Donc, il y a une boîte.
Tu savais pas, Justin?
Si, enfin, je connais OK Media, mais je savais pas que t'avais investi.
Bah, en fait, faut savoir l'histoire, c'est que le créateur d'OK Media, c'est Okazuma. Et Okazuma, sa première chaîne YouTube, enfin, où il a percé, c'est Best of Sardoche. C'est la chaîne Best of Sardoche. Donc c'est les Best of à la con où au début c'était Rage un peu machin qui m'ont fait percer sur YouTube. Parce que moi j'ai jamais vraiment kiffé YouTube, mais lui il faisait des Best of. Il y avait plein de gens qui faisaient des Best of. Et en fait de toutes les chaînes de Best of, il fallait bien en choisir une parce que ça commençait à être le bordel. T'avais des trucs dans tous les sens. Et puis c'était dur de contrôler son image aussi. Et j'ai dit ok, on ferme toutes les chaînes sauf lui. Et lui, je vais le contacter, on va bosser ensemble, on va essayer de faire un truc cool. Et au début, je lui ai dit, bon, tu travailles sur mon image, c'est un petit peu chiant, mais j'ai vu que t'étais passionné, que tu faisais ça avec plaisir, vas-y, viens, on fait 50-50. Donc au début, sur la chaîne, je gagnais 50% des revenus de la chaîne, et voilà, et on discutait un peu de tout.
J'ai pas compris, au début, moi, je pensais que c'était ta chaîne.
Ça a jamais été ma chaîne. C'était sa chaîne au début, de A à Z, je n'ai jamais eu un contact avec lui avant ça. Et après, 6 mois plus tard, il faisait des trucs, c'était pas évident parce que quand même, il faisait une vidéo par semaine, il a jamais raté une semaine, tu vois. Je lui ai dit, vas-y, prends 100%, mais fais-toi kiffer, quoi. Essaie de faire des trucs cool, machin. Et qu'est-ce qu'il a fait avec les 100% de revenus de Best of Sardoche? Parce que moi, j'étais en mode, ça me fait de la visibilité, il kiffe faire ça. Tu vois, c'est rentable, quoi. Enfin, genre, moi, j'ai tout à y gagner. Et puis, en plus, s'il a 100%, il va pouvoir snowball et faire des trucs. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce snowball? Il a recruté des monteurs d'abord pour la chaîne Best of Sardoche, pour sous-traiter.
Ouais.
Donc, du coup, il était plus dans l'organisation entrepreneuriale, plus que dans le montage. Il leur donnait des petits cours de montage pour leur expliquer comment ils faisaient les trucs, il leur filait l'intro, machin. C'était déjà assez industrialisé, Best of Sardoche, parce que t'avais l'introduction, les cuts qui étaient tout le temps les mêmes, la fin. Donc, il y avait ce côté un petit peu, on prépare les monteurs à faire un contenu tout le temps un petit peu lissé. Et en fait, au bout d'un moment, il y a d'autres streamers qui ont commencé à vouloir ses services. Il a commencé à faire des best-of pour Koro, pour Aldé, pour d'autres streamers. Puis aujourd'hui, il a commencé à carrément faire des best-of pour toi, du coup. Il travaille pour Underscore, il fait des...
C'est ce que j'allais dire, effectivement, que nous, on a ponctuellement besoin d'aide en montage, etc.
Ouais.
Notamment quand, tu sais, il y a une grosse période d'activité, de demande et tout.
Tu peux pas forcément utiliser tes monteurs, t'as besoin de plus de taf.
Tu peux pas employer en une semaine 3 nouveaux monteurs, quoi.
Mm-hmm. Ouais.
Et donc, j'ai effectivement, je bosse avec
Oka. Et donc, Okazuma, son rêve depuis longtemps, c'était de créer une plateforme absolument méta pour centraliser tout ce qui est demande de montage. Et donc...
est-ce que t'as sauté le moment où...
Ah oui.
La boîte.
Ah oui, alors...
Est-ce qu'elle se crée?
Au tout début, c'est une toute petite boîte et ils recrutent quelques personnes et ils font un truc genre... C'est juste OK Media, genre ils font du montage.
Ouais.
Et en fait, lui, déjà, il a l'idée de faire un truc de ouf avec une plateforme de dingue et il a besoin d'investisseurs et de trucs comme ça. Et donc, en fait, il a deux personnes qui le rejoignent, des investisseurs. Il a besoin d'eux pour créer la boîte parce qu'il a 15 ans et demi à l'époque, en fait. Il a 16 ans, le mec.
Et toi, t'as investi sur une boîte
et moi,
à 15 ans.
Donc, le mec, il monte Best of Sardoche. Donc, c'est lui dont la photo, c'est Adam. Il a 16 ans. Et je fais, vas-y, bah, mec, je lâche 50 000. J'ai jamais mis un euro dans un truc de ma vie. J'avais peut-être, je veux dire, sur mon compte courant à cette époque, j'avais peut-être 150 000 euros, tu vois. Ou peut-être 200 000, ou peut-être 150 000. J'ai mis 50 000. J'ai mis
un tiers de tes économies sur un mec de 15 ans.
Ouais. Je me suis dit, en vrai, c'est marrant, tu vois.
C'est marrant, oui.
Non, mais pour le lore, tu vois, s'il y a bien une boîte qui doit péter, exploser, c'est celle-là, tu vois. Et le truc était vraiment fun, tu vois. C'était, bon, alors, le truc, c'est que, du coup, les deux mecs qui l'ont aidé à créer sa boîte parce qu'il était jeune, du coup il pouvait pas faire les statues et tout, ils se sont avérés qu'ils l'ont un peu baisé, tu vois. Du coup il a perdu son, il a perdu son compte épargne de son, tu sais, son PEL, il a dû le mettre dans la boîte et tout. Il y a eu des galères de ouf. Il a essayé de payer tout le monde. Il y a eu des dramas parce que forcément il y avait des mecs qui étaient pas payés très cher parce qu'au début il avait une campagne assez agressive pour créer une sorte de méta sur lequel il avait son truc. Et en fait, petit à petit, il est revenu sur des bases super saines avec des tarifs fixes et trop propres. Et surtout, son projet ultime, c'était de créer une plateforme où genre les gens viennent, ils disent « je veux monter une vidéo en tel temps, avec telle qualité, tu peux choisir entre différents trucs ». Et hop, t'as un chef de projet qui vient te contacter, il te dit je vais te choisir ce monteur, et lui de son côté choisit son monteur, il choisit le machin, il choisit le truc, tous les fichiers ils sont uploadés sur la plateforme, tu peux laisser des trucs, des fichiers audio pour dire ce que tu veux, et tout est automatisé, du virement à la facture au machin, au truc, c'est des centaines de milliers d'euros de dev, hein, pour ceux qui savent ce que ça vaut, voire même ça tape le million.
C'est une plateforme SaaS, facile, ça, ouais. Quoi.
Facile, et la plateforme aujourd'hui elle voit le jour, tu vois, alors que c'est, ouais. Mais j'aurais jamais pu croire ça possible.
J'avais déjà l'info. Puisque j'ai vite fait tester donc une alpha et très propre, très bon. Je sais pas qui est derrière le dev.
Ah bah il y a des différents cracks, mais
et ouais, c'est des gens en prod là.
Là c'est on là.
C'est ah c'est on.
C'est en prod. Là c'est bon, là c'est en prod.
Bah tu peux voilà.
Tu pourras tester. Bah vous pourrez tester, c'est super intéressant. Mais le truc c'est que pour n'importe quel type de montage quoi, donc c'est assez huge, ouais. Et bah du coup très fier de ça parce que bah c'est lui, bah c'est moi, j'ai pas travaillé dessus, je lui ai fait un peu de conseils, je lui ai dit ouais, ce serait bien qu'il y ait ça sur la plateforme.
Est-ce que tu veux uberiser le montage, Sardoche? C'est ça en fait.
Bah moi du coup je suis j'étais dans la boîte et là disons que il va y avoir des changements plus massifs dans la façon dont la boîte est gérée et tout. Moi j'aurais kiffé rester à l'infini et être en mode je veux revendre quand ça vaut 10 milliards et tout, tu vois, le délire un peu.
Mais du coup c'est pas le cas.
Et du coup c'est pas le cas parce que je vais sûrement sortir. Donc je serai toujours en contact avec lui parce que bah, c'est un mes meilleurs potes et on a toujours une société ensemble où on investit dans l'immobilier ensemble, donc okay. On est super proches alors que ça à la base c'est un monteur qui fait des best-of sur moi, tu vois.
Et ça peut paraître bizarre, hein. Non mais c'est, je pense que c'est important, mais tu es streamer, ton métier c'est de montrer des jeux vidéo, etc.
Ouais.
Putain, je viens de résumer le métier de streamer de la pire.
Non mais c'est ça, non, mais mec,
j'ai moi streamer sur mon canapé, je viens.
Non mais c'est vraiment comme ça que j'aimerais qu'on résume mon taf, parce que moi j'ai pas envie de faire des événements de fou, des machins, je suis pas zérateur, hein. Moi mon métier c'est de jouer à la League of Legends solo queue à Rocket League, tu vois.
Et du coup, non mais
c'est vraiment ça.
Question con, mais le fait que tu sois, que tu puisses investir dans des projets, que t'es une boîte qui fait de l'investissement immobilier, je pense que c'est pas du tout évident pour tout le monde. Comment c'est possible, tu vois, d'où ça vient ça?
Bah du coup, vu que je suis pas trop dans le Bitcoin, dans la spéculation, j'aime bien comme tu l'as dit, si t'épargnes, l'inflation va plus vite que l'épargne. Donc tu perds de l'argent. Donc vaut mieux dépenser ce que tu possèdes, voire même si tu veux un peu jouer sur le côté gangréné de notre société, faire des crédits pour gagner. En fait, c'est l'inverse de l'épargne, du coup, c'est l'argent que tu ne possèdes pas qui du coup tu
tu
rembourses plus tard, donc forcément tu gagnes du temps sur l'inflation. Donc ouais, c'est on a la chance d'être en bonne santé et d'avoir un apport, donc tu peux avoir des crédits, donc c'est intéressant quoi.
Ok, mais down, je vois dans le chat.
Ah, bah tant pis.
Si t'as besoin de montage, toi, tu fais comment?
J'embauche une monteuse occasionnellement parce que j'ai pas forcément pour l'instant le budget pour faire des best-of tout le temps quoi, mais ouais, c'est assez intimiste.
Tu sens que c'est un besoin qui existe aussi. Moi, je sais que chez YouTubeurs, c'est sûr que ça existe. Dans le streaming, tu penses?
Ouais, j'ai vraiment besoin de faire de, parce qu'en fait, dans le streaming, si t'as envie que les gens voient ce que tu fais, c'est bien de se mettre sur d'autres plateformes, genre TikTok, genre YouTube, etc.
Mais en fait, c'est la flemme.
Moi, j'ai du mal à faire de l'acquisition sur YouTube et tout. Je sais qu'il y a plein de YouTubeurs, de Twitch qui explosent grâce à YouTube. Mais moi, YouTube, ça me met mal à l'aise parce que, tu vois, à part les podcasts comme ça où tu mets en flat la séquence. C'est tellement facile de tricher que du coup je me dis, si t'es sur la plateforme et que tu triches pas, t'as un désavantage, tu vois. Mais si tu triches,
un best-of ultra dynamique où il se passe des trucs tout le temps,
dans le live, bof, tu vois.
Bah, c'est ça. Après, ça invite surtout les gens à venir voir en live. S'ils sont pas convaincus, de toute manière ils auraient pas été convaincus sans le best-of.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est de toute manière c'est juste un condensé de ce que tu peux apercevoir sur Twitch. Mais c'est pas mal,
mais certains aiment ça. Moi parfois j'avoue, le best-of, je pratique le best-of,
j'aime bien le best-of.
Pour finir, est-ce que potentiellement t'as des technologies ou des projets de start-up, de nouvelles techno qui te hype en ce moment ou que t'aimerais voir venir, tu vois, dans le futur?
Oh, j'ai pas trop, non.
Suis un peu quand même tu mentionnais des technologies de développement tout à l'heure.
Ouais.
Est-ce que t'as un petit œil sur sur les innovations IT. C'est qu'on parlait du fait que chez Popcorn, par exemple, tu avais eu l'occasion de faire des chroniques.
Ouais. T'as un exemple ou pas de truc, toi, en tête?
Alors, je vais prendre un exemple qui est pas très récent du tout, ouais. qui a trait à notre installation ici, donc moi, que j'ai découvert il y a peu. C'est dans la gestion du montage et de la diffusion de. Voilà, attends, je reprends. Ça va être un peu compliqué à expliquer. Sur les tournages, à l'heure actuelle, c'est très procédurier. C'est-à-dire que tu as la caméra qui enregistre sur de la SD ou sur des flashs, et ensuite tu les uploads à des monteurs qui sont à l'autre bout de la planète, etc. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et tu as une boîte qui s'appelle Frame.io qui a développé des trucs incroyables. Ils sont fait racheter par Adobe par je sais pas combien de millions. 100 millions 1 milliard.
C'est pas mal.
Dites-moi. Et en fait, ils ont des concepts de ouf où tu as un appareil que tu branches sur ta caméra qui diffuse en direct via leur cloud à l'équipe de montage.
Ah ouais.
Un proxy, donc une version très allégée de la vidéo, pendant le tournage, pour qu'ils puissent déjà commencer.
Ah, et après, ça récupère les morceaux après, plus big, au bon endroit.
Au moment de l'export.
Oh, c'est incroyable.
Tu peux ensuite.
Donc, en gros, tu montes des genres de miniatures, et puis après,
tu peux commencer à monter un tournage cinéma, environ avec 10 minutes de décalage, par rapport au moment où il se produit.
C'est vachement stylé.
C'est cool. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, par exemple. Mais voilà, c'était pour savoir. Sur la partie chronique, Popcorn, etc., tu me disais que tu avais potentiellement t'aurais pu avoir envie d'en faire plus ou d'aller plus dans le détail?
Oui, sur Popcorn, des fois, j'ai envie d'aller plus deep, c'est sûr, mais t'avais je peux pas.
Quoi déjà?
J'ai déjà fait une chronique sur l'IA, j'ai fait une chronique sur le sommeil polyphasique. Après j'ai pas forcément fait des trucs de tech, hein. J'ai fait une chronique sur tu sais l'endroit où tu conserves toutes les germes d'ADN des plantes et tout
quoi, c'est en Islande, un truc comme ça,
ouais.
En Norvège
ouais. J'avais parlé de ça, du coup j'avais dérivé un peu sur la culture, la dépendance aux fournisseurs de semences et tout.
Ouais, mais sur une chronique du coup assez tech type IA,
ouais.
À quel point c'est galère de faire un truc aussi vulgarisé pour un public aussi grand, quoi?
C'est technique quand même. Enfin, je sais pas. Non, en vrai, j'ai quelques libertés quand même. Mais de toute façon, si je vais trop dans le détail, je vais faire des erreurs parce que ça demande plus de recherche. Mais ça reste quand même un public pas débile. Mais c'est sûr que c'est des gens qui sont pas forcément à fond dans la tech. Mais je me rappelle,
c'est pas un exercice auquel t'as l'habitude forcément.
Si, quand même. Bah si, forcément avec mon live. Avec mon live, les gens sont pas forcément.
Mais je veux dire sur la portion IT, etc. Ouais. C'est pas forcément. Tu vois, c'est pas comme si tu. Quoique, je ne sais pas. Est-ce que tu les trucs dont tu parles ce soir, t'as l'habitude de.
Ouais, ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive. Ouais. Puis ce qui est bien, c'est que je peux sonder tout de suite si le chat suit ou pas.
Ouais.
Et s'il y en a qui comprennent pas, ça me fait plaisir de leur expliquer, quoi. Mais ouais, non, c'est ça qui est bien avec Twitch, en fait. C'est que tu as le retour tout de suite. Mais quand t'es sur Popcorn, t'as pas le retour, tu vois, t'as pas le chat. Donc je dois être sûr dès le début qu'il y a tout qui est dans le bon ordre pour que les gens n'aient pas besoin de poser de questions. Ouais, mais là où j'ai eu le plus de mal, c'était j'avais fait une chronique sur Cas9. Casper, donc le ciseau moléculaire
de l'ADN.
Ouais, le ciseau moléculaire, le CTRLF remplacé de.
Oui.
De l'ADN, ouais. Et ça, c'était dur parce que j'avais un petit niveau en biologie, forcément, un petit niveau bac plus je me suis renseigné et c'était dur de faire comprendre même à Domingo sur le plateau des trucs comme ça, ouais.
Clairement. On va finir avec un petit point sur le Z Event.
Ouais.
On en a peu parlé. Est-ce que t'as passé un bon week-end?
Oh, c'était un des meilleurs week-ends. Des meilleurs week-ends de ma vie, c'était trop trop bien.
Par rapport aux autres Z-Events?
Ouais,
tu les as tous fait, en fait?
Je les ai tous fait. J'ai pas fait Avengers, qui était le premier truc, qui était issu d'un live d'Athènes. Bon, bref. C'était le premier Z-Event, je l'ai fait, c'était en 2016. C'était super. Tous les Z-Events étaient incroyables. Juste, le Z-Event de l'année dernière, il s'est passé quelques petits trucs qui ont fait que j'étais pas dans.
Ah oui, les petits dramas des familles.
Petits dramas qui ont fait que j'étais pas au top de ma forme.
Alors que là, ils étaient pas pour toi cette année, les dramas. C'est ça qui vient.
Bah, il y a eu deux dramas, mais c'était un peu nul, quoi. Mais là, franchement, c'était trop bien. En fait, Amine et Billy, ils ont ramené une vibe tellement positive aux Z-Event.
C'était quoi les moments que t'as préférés?
Bah, moi, forcément, mes trucs trop cool, c'était la dégustation de piments, où j'ai fait goûter des piments à des potes, la petite nuit posée où on fait la tirelisse de LOL à 3h du matin, avec Chap et Wax. Tu vois Getting Over It?
Ouais.
Le jeu avec le marteau, je l'ai fini sur un tapis de course.
Sur un tapis de course.
En fait, sur un tapis de course où les gens, dès qu'ils faisaient un don de 100 balles, ça augmentait de 0,1 km/h. Tu vois?
Trop bien.
Non, 100 balles, c'était 1 km/h. Donc, en gros, tu vois, ils faisaient 2000 euros de don, j'étais à, 2 km/h de plus. Et donc, en fait.
T'as fini un sprint sur donc, Getting Over It.
Ouais, j'étais à 9,5 km/h à tenir ma souris comme ça. Et à finir Getting Over It, faut poser son marteau sur l'orange pour pas tomber du bord, tu vois, et monter.
Qui est, pour ceux qui connaissent pas, un jeu qui est fait
très
pour
dur.
Que,
tu tombes tout au début.
Tu échoues, voilà, au bord de la réussite, tu échoues jusqu'au début.
C'est ça. Et je l'ai fini en quand même 12 minutes, donc ça va. C'était pas mal, j'étais assez content.
Not bad.
C'était pas mal. Et ouais, il y a eu d'autres trucs. J'ai fait une run Guitar Hero. J'ai fait une run Dark Souls avec une guitare de Guitar Hero. Je sais pas si tu vois le truc.
Attends, une run Dark Souls en même
temps. Tu vois Dark Souls 3.
Le temps que ça monte. Oui, oui. Qui est un des jeux des.
Bah, au lieu d'une manette, j'utilise une guitare de Guitar Hero.
D'accord.
Voilà. Des trucs comme ça.
Je sais pas où tu vas,
Charles. Il y a un mec qui a fini Dark Souls récemment, là. Avec un bouton.
Il fait des macros de.
Exactement. Course et roulade. Rester appuyé, c'est attaquer.
D'accord, c'est un des jeux les plus durs.
Ouais, deux coups, c'est avancer tout droit. Trois coups, c'est aller à droite. Et en gros, il a mappé le bouton pour qu'il fasse 10 actions différentes en fonction de s'il appuie vite
en
morse.
Il a trouvé un vrai travail.
Il a fini le jeu. Il a fini le jeu.
Mais c'est incroyable.
Je trouve ça incroyable.
C'est beau. Non, mais c'est magnifique. D'ailleurs, on avait des petites exclus à propos du Z-Event. On vous en parle juste après. Sur la technique des backstage et tout.
Méga. Je suis pas au courant du tout. Donc c'est,
c'est hyper intéressant. Les questions hyper bêtes, est-ce que vous ramenez vos PC pour ce genre d'événement?
Non, tous les PC sont donnés, les deux écrans, les PC, tout est installé.
Donc il y a vraiment le setup des 51 streamers qui est installé
et sur PC. À la fin, ils avaient 130 ou 140 écrans à démonter, à remonter dans les caisses. C'était une horreur. Ils étaient trois. Pendant, moi j'étais là, si tu veux. J'étais le seul streamer qui avait pas démonté mon setup. Enfin, tous mes claviers étaient restés. Jusqu'à de 1h du mat jusqu'à 5h du mat, j'étais assis sur mon téléphone et je voyais les mecs. Il y avait des dizaines d'écrans, ça n'en finissait pas, horrible. Les pauvres.
T'aimerais y participer précisément une fois?
Bah bien sûr, évidemment. Bah de toute façon, c'est un événement, genre t'es avec tes potes, tu fais une.
Ça a l'air hyper bonne ambiance.
En vrai, c'est le rêve de tout streamer, je pense. C'est un truc, on est ultra privilégié d'y participer. C'est vraiment.
Bah nous, c'est vrai qu'on a un côté très très talk show, donc c'est un peu bizarre, mais qui sait. J'ai peut-être un futur de streaming.
Peut-être, hein, avec ta voix suave.
Avec ma voix, bah voilà. Maintenant que je sais que je suis dans le top 1%,
c'est obligé.
Pour finir cette émission, on va faire un petit quiz. Nous a préparé l'équipe.
Incroyable.
C'est parti.
Avec deux Z.
Avec deux Z, il est normal, effectivement. C'était pour préciser que, bon, voilà, pas d'originalité spécifique. c'est un quiz. On va revenir sur deux, trois choses dont on a parlé juste avant. C'est très simple. Une question, quatre propositions. Il faut trouver là où les bonnes réponses. C'est un quiz à choix multiple, finalement. Un quiz CM même.
C'est un quiz normal, finalement.
Oui, c'est un quiz
normal.
C'est
un quiz normal,
exactement.
Ouais,
je viens d'expliquer ce que c'est un quiz.
Okay.
On n'a pas encore d'ardoise, n'est-ce pas? Parce qu'il y a. Pas de budget, quoi. Enfin,
la prod un peu en dessous, quoi. Ouais.
Exactement, on va utiliser les cerveaux. Première question. Selon vous, quel débit est nécessaire pour faire un Z-Event?
Oh là là.
Est-ce qu'on parle de montant, de descendant?
Ah oui, on parle en montant.
En montant,
donc,
ok.
Pour envoyer, on parle quand même de 51 flux vidéo qui partent vers Twitch pour être diffusés par les serveurs d'Amazon. Donc, petit A, 250 gigabits. Petit B, 1 gigabit. Petit C, 5 gigabits. Petit D, un portable en partage de connexion.
Moi, je dirais 5. Je dirais que c'est un B, c'est pas autant que ça.
Ok.
Bon, moi, je pense que je fais un calcul basique. C'est genre un streamer qui stream en 6000 gigabits seconde, fois 5, fois 50. Donc, ça fait genre. J'ai pas envie de faire le calcul, 600. Mais.
Non, mais c'est ça. C'est.
Mais un giga, ça semble. Moi, je pense qu'un giga, ça pourrait suffire.
Après, moi, je triche parce que je sais.
Dans le chat de tout. Vous êtes pas sûr.
Non, moi, je sais que de toute façon, un giga, ça serait trop peu. Parce qu'évidemment, ils ont besoin de plusieurs fibres. Je le sais. Une fibre, ça va être un. Et je sais surtout que quand on est tous à télécharger un jeu, bah, c'est un peu la galère quand même. Donc, c'est pas 250, du coup. Donc, je pense que c'est simple.
Je mettrai un giga, moi.
Mon cher Sardoche, tu vas être étonné.
Ah, c'est.
Puisque la réponse, c'est 1 gigabit.
Ah, 1 giga seulement?
C'est assez ouf, on est d'accord. Mais pour réussir à faire cette prouesse technique d'avoir seulement 1 gigabit en montant sur les locaux du Z-Event, ils doivent faire des opties, mais qui sont hyper intéressantes. Donc, première chose, ils forcent toutes les requêtes DNS à passer par leur système. C'est-à-dire que tous les ordis qui sont présents, en gros, ils vont essayer de minimiser au maximum le nombre de requêtes qui partent des ordis présents sur le Z-Event et qui vont aller sur, qui vont sortir du bâtiment, tu vois. Donc si par exemple quelqu'un veut un DNS, c'est pour savoir comment se rendre sur un site web. Donc si quelqu'un veut aller sur steam.fr, ce qui peut arriver j'imagine pendant un Z-Event, eh ben la requête qui va lui la requête DNS qui lui permet de charger le site ne va pas jusqu'à un serveur de DNS classique, ça s'arrête sur à l'infra du Z-Event parce que c'est mis en cache. Donc déjà, okay. ça permet de réduire.
Ah oui, comme ils savent que toutes les personnes
ils mettent en cache les je sais pas précisément ouais. comment ils le font, mais par exemple,
mais comme ils savent que 200 sites, on va avoir une demande limitée en termes de sites puisqu'on va tous faire quasiment les mêmes trucs.
Et alors coup, si c'est pas dans la liste,
ouais, ça
ça va aller le chercher et ça le rajoute au cache.
Ouais. Mmh. Bah, c'est un peu ce que font les gens dans les LAN, finalement, les grosses LAN, quoi.
Exactement.
Ouais.
Et ou dans les grosses entreprises, etc. Ouais. Deuxième information, donc ils prévoient de mettre en cache en avance tout un tas de mises à jour système de Windows, des jeux Steam. Donc tu posais la question, si tout le monde télécharge des jeux Steam, en réalité, il y a de fortes chances que ton jeu Steam il soit déjà chargé dans le cache du Z-Event.
Ah ouais.
Et donc c'est pour ça que ça va aller hyper vite. les jeux Epic, etc. Donc comme ça, il y a rien, enfin comme ça, ça ne va pas sur Internet, ça reste à l'intérieur du système d'information. Ça, j'ai trouvé ça ouf.
Ouais, c'est une scène. Ouais.
Ils nous ont raconté ça. Quand quelqu'un télécharge quelque chose qui n'est pas dans le cache, donc il le rajoute, comme ça, tous les suivants, ils vont le faire. Potentiellement s'ils n'avaient pas prévu un jeu, etc. Et c'est ça qui fait que, du coup, dans les premières heures où tout le monde est en mode... dans les premières heures, c'est le setup, donc tu télécharges tes jeux, etc.
Ouais, ouais.
Donc ça permet de pas down toute l'infra, parce que sinon, vraiment, ce serait...
Mais un giga, on ne se rend pas compte, c'est le truc que tout le monde a, en fait.
Mais oui.
C'est comme si là, demain, dans mon petit appart, on était 50 à streamer.
C'est ouf.
D'accord,
personnellement, chez moi, j'ai un gigabit en,
ouais, bah ouais,
en montant.
Ouais,
voilà.
Pareil.
Moi, j'aurais vraiment
bientôt
dit
un événement à 50 dans mon appart.
Le M-Event.
Non, mais c'est complètement... oui, donc tu demandais en montant ou en descendant, c'est en symétrique.
En symétrique, ouais.
Mais c'est voilà, très, très impressionnant.
Ouais.
Deuxième question. Selon vous, qu'est-ce qui aurait pu empêcher le Z-Event cette année? Petit A, un alerte à la bombe. Petit B, une attaque des DOS. Petit C, un talus. Petit D, un ongle incarné.
Oh bah, il y a une couille, je pense. Il y a un petit... comme ça, j'ai envie de dire, ça la bombe, tu vois. Mais
il y a eu A, B et C. Je le sais parce que...
Non, t'as plus d'infos que nous, c'est possible.
Le C, ouais. C'est, ils ont dû contourner un talus pour faire passer une fibre. Ils ont dû tirer une fibre, si je dis pas de bêtises.
Et ben...
Donc c'est Jaguar Network, je crois. Ils s'occupaient de ça, si je dis pas de conneries. Le A, bah, effectivement, ça aurait pu nous mettre dans la merde. Parce qu'ils ont, ouais, ils ont dû vérifier que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de bombe, parce qu'il y a des gens qui s'amusent
Je vois beaucoup de bonnes réponses également dans le chat.
Il y a des gens qui s'amusent à souhaiter des événements caritatifs, donc c'est assez con quand même, un peu.
C'est très con, ouais.
Et attaque des doses, bah, il y en a qui ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné, j'ai l'impression.
Voilà,
et là, tu peux nous dire qu'il y a aussi D, non?
D, je sais pas.
Je n'ai pas tous les détails de cet événement. On a eu les réponses pour vous dire du directeur technique, donc du Z-Event. Merci énormément. Ils ont fait appel, comme tu disais, à un opérateur pour déployer une fibre pro. Parce que pour ce genre de truc, tu n'as pas envie de potentiellement avoir le technicien SFR qui a oublié de brancher son truc, qui nous fait un down de 3 heures au milieu. Ce ne serait pas grave. Donc, tu prends une fibre pro qui a des particularités, notamment de uptime, qui font que tu n'es pas censé avoir de problème du tout. Petit bonus, à votre avis, combien est-ce que ça coûte de tirer comme ça une fibre pro?
Je sais pas, 3-4 000 balles, non?
Ouais, moi j'avais demandé parce que en fait le risque c'est toujours quand t'achètes un appartement ou une maison, si tu peux pas avoir la fibre, ça devient rentable pour toi de payer pour te remettre à bosser, quoi. Et c'est entre, ben, en fait ça dépend de la distance, mais ça peut être entre 5 et 50 000 balles.
T'es pas si loin, c'est entre 15 et plus de 200 000.
Ouais, ça peut être carrément 200 000.
C'est vrai que ça dépend de la longueur
suivant,
de la fibre,
voilà, suivant les cas, suivant, j'imagine, le débit que tu as besoin. Et donc, dans ce cas-là, ils nous ont dit que c'était plutôt dans la fourchette basse.
Ouais.
Et ce qui inclut donc une protection contre le DDoS, ce qui répond à la question. Bref, ça peut prendre très très longtemps, en fait, de faire venir une fibre classiquement, entre 8 et 15 mois. Les histoires de voirie, de mairie.
Mais c'est ça, faut esquiver
les trous.
C'est un enfer. Et donc, l'événementiel étant beaucoup plus en dernière minute, t'es obligé de trouver des solutions. Et là, ils ont pré-shot 8 mois avant.
Ah ouais.
Donc GG à eux, tout simplement. Sauf que effectivement, tu avais juste Sardoche. Il y avait un problème de talus.
Ouais.
Et leur opérateur a un centre qui était en périphérie de Montpellier et où les gens venaient déverser leurs ordures tout à côté. Et donc c'était pas genre quelques ordures, c'était 5 semi-remorques.
Oh, un bon gros talus quoi.
Donc de terre qui font que ça complique l'installation de la fibre. Voilà, ils nous ont dit, je cite, on était à deux doigts de faire un appel sur Twitch à des viewers pour qu'il y ait une centaine de personnes qui viennent déblayer tout ça avec des camions afin de pouvoir faire ce Z-Event. Ce qui aurait donné une scène plutôt
ça aurait été incroyable. Stylé, ouais.
Ça aurait été très cool. Bon, finalement, la ville a fait le taf, mais ça aurait été assez drôle, malheureusement, un moment de Twitch qui s'est perdu. Merci beaucoup, du coup, à Dash et à Timothée, donc le directeur technique du Z-Event. Ils nous ont répondu très très rapidement, c'était incroyable, donc merci énormément. Et on passe à la question suivante. Qui a mis au point le premier programme informatique capable de jouer aux échecs?
Ah, aux échecs.
Petit A, Alan Turing. Petit B, Marianne Rejewski. Hans Thilo Schmidt ou Max Newman.
Mais je crois que c'est Alan Turing, il y avait une histoire comme ça.
Bah, en tout cas, c'est grâce à lui que l'informatique existe, quoi. Mais c'est, est-ce que...
Non, je crois que dans un de ses délires au début, il avait mis en place un petit jeu. Et ouais, je dirais Alan Turing, ouais.
Parce que je connais pas les autres, donc je dirais Alan Turing aussi.
C'est effectivement, j'avoue, moi j'ai pas les autres refs non plus. C'est effectivement Alan Turing, ça s'appelait Turochamp. Voilà, en mai 1952.
Ouais.
On peut dire que d'ailleurs tu pratiques l'échec.
Ah bah je m'y suis mis très sérieusement.
T'es quel élo là?
J'ai commencé en manger les jeux quand j'étais petit, comme plein de gens. Et j'ai repris très sérieusement à partir de janvier où j'étais à 950 000 élos. Et j'ai piqué à 1860 là, en juin, juillet. Ah. Donc c'est pas mal.
C'est beau. Moi j'avoue, j'ai pas encore eu la DTR. Mais c'est dans un coin, c'est sur une
là équipe. J'étais vraiment abominable par exemple. Et puis 6 mois plus tard...
Donc Absol qui est un youtubeur qui pratique les échecs notamment. Mm. Pour vous dire, alors petite anecdote sur le... Je sais qu'on va me citer ça. Il y avait un automate turc également en 1769.
Il y avait un mec dedans.
Exactement.
J'ai spoil l'histoire, je suis désolé. Non. J'ai niqué l'histoire.
C'était, comme tu dis, c'était un scam. Donc il y a un petit monsieur qui a écrit dans la machine.
En quelle année?
C'était en 1760.
Ah, ouais, 1700, en fait, okay, il présentait l'automate à des grands rois, à des monarques et tout. Et les gens étaient choqués parce que l'automate jouait trop bien. Et le mec était en mode, quelle invention géniale. Et en fait, il y avait un mec dedans qui bougeait et en fait, il était tout petit, il était super fort aux échecs. Il battait déjà à l'époque la plupart des maîtres. Et du coup, il faisait jouer les coups à l'automate. Et tout le monde était choqué.
Oh, le scam.
Incroyable.
c'était que des gens qui, en plus d'Alan Turing, c'était que des gens qui avaient participé à casser Enigma.
Enigma, bien sûr.
Mmh.
Visiblement, on n'était pas assez attentif pendant.
Il y avait un champ lexical.
Oui, c'est vrai. Je vous propose de passer à la question suivante. Selon vous, quel est le niveau d'une intelligence artificielle?
Ah, moi, je connais de fou.
Sur Rocket League. Ah, je me demandais justement.
Ah, j'arrête pas de regarder des vidéos de mecs qui développent des intelligences artificielles sur Rocket League. J'adore.
Petit A, il n'en existe pas. Mmh. Bon, tu viens de me spoiler. Petit B, de la merde. C'est niveau platine. D, explose Sardoche.
C'est une scène, les gars. Ils sont une scène sur Rocket League.
T'es quel niveau, toi, Sardoche?
Je suis high champion, le grand champion.
Ok. Je propose qu'on laisse, du coup, Justin répondre d'abord. Selon toi, quelle est la réponse?
Bah, ça dépend si tu estimes que niveau platine ça t'explose ou pas, quoi.
Non.
Non.
Bah, non, ça va bien entendu.
Enfin, d'après le chat, oui. sinon, non, normalement.
En vrai, je joue à Rocket League et je me fais bien exploser déjà de base par les IA du jeu. Bon. Mais je me dirais.
C'est peut-être un problème, ça, parce que.
Oui, non, mais après, voilà, c'est. Je tryharde pas non plus, mais.
Pas de jugement. Ici.
Non, mais je pense que ça explose tout le monde, hein. Globalement, ça explose tout le monde.
Eh bien. Tu te fourvoies.
Non, les IA, les IA sont très faibles.
Ah, donc je suis encore plus de la merde que les IA sur Rocket League.
En fait, c'est tellement compliqué comme jeu. Mais c'est.
Je suis totalement d'accord et c'est pas du tout intuitif. Mm. La preuve, du coup, c'est. Tu as l'impression que tu vas exploser même les joueurs pro, etc., avec une IA.
Ouais.
Et en fait, c'est pas intuitif. Je sais pas comment l'expliquer, en fait.
Mais en fait, c'est comment tu développes une IA. Ce serait trop bien. Je savais pas si on aura le temps de parler un peu d'IA parce que, genre, les trucs sur Dota et tout, moi, je kiffe ça. En fait, quelle variable tu prends en entrée dans ton intelligence artificielle? Imaginons, tu veux la développer même en machine learning, en deep learning. qu'est-ce que tu mets en entrée,
ouais, c'est
tu
vrai,
vois le... Parce qu'en fait, ce que tu vas mettre en sortie, c'est bon le nombre de buts que tu mets, ta possession peut-être à la limite de balles.
Alors oui, mais... pour préciser, Rocket League, pour ceux qui ne...
C'est un jeu de voiture.
C'est un jeu de voiture qui ressemble à ça, n'est-ce pas?
C'est du foot avec des voitures.
C'est du foot avec des voitures. Mais en fait, du coup, qu'est-ce que tu mets en entrée? C'est ultra difficile de choisir une variable. Ouais, la position de la balle par rapport à toi. Sauf qu'il y a déjà, l'orientation de la voiture qui peut aller dans tous les sens possibles. T'as ton momentum, bah, pareil, dans les 6 directions possibles.
Ouais, plus le boost.
Donc en fait, ta quantité de boost disponible, la position des boosts, est-ce qu'ils sont là ou pas? Le decision making, en réalité, il est complètement fou.
Il est hyper, hyper complexe.
Et je pense que dans un jeu comme le Go, ou même un peu plus compliqué, Dota, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple.
Et d'ailleurs, il suffit de voir le niveau des IA qui sont vachement bonnes. Mais en fait, je pense qu'un bon moyen d'avoir une intuition de pourquoi c'est si dur, c'est aussi le fait que c'est un jeu qui simule de la physique.
Oui, c'est
la vraie physique, c'est-à-dire que toi, tu ne contrôles pas, contrôles pas des mouvements ou des actions dans un périmètre.
Parce que déjà, t'as la mécanique de pinch, qui est le fait de pincer la balle contre le mur. Ok. Et tu vois, suivant que t'es un tout petit peu à droite ou un tout petit peu à gauche, la balle elle va partir à 130 ou à 90 ou à 60, tu vois. Et en fait, arriver à anticiper ça.
Dota ou les échecs ou les.
En fait, il n'y a pas ce côté chaotique. C'est-à-dire, il n'y a pas cette théorie du chaos où un micro changement fait qu'il n'y a rien à voir. Alors que dans Dota 2, tu touches ou tu touches pas. C'est très manichéen et très facile à anticiper.
Et aussi, c'est des approximations du réel. Enfin, c'est vraiment des mondes. Ils créent des mondes avec des règles beaucoup plus simple que la vie. Alors que là, on est vraiment, il simule de la physique. Ouais. Il y a des voitures qui peuvent faire des droits d'auge.
Non, par contre, j'ai deux, trois trucs trop sympas sur Rocket League en IA, je suis tombé sur ça. Déjà, c'est une IA qui est capable, en fonction de la position de la balle, de reproduire des mouvements qui ont déjà été enregistrés par des joueurs. C'est-à-dire qu'en gros, ils nourrissent le truc avec juste des moves. Par exemple, ils prennent la balle, ils la mettent sur le mur, ils font un double reset musty, machin, des dingueries, tu vois, du freestyle. Et en fait, l'algorithme est capable de repositionner la balle à l'endroit où le début du move a été fait et à reproduire plus ou moins le move, tu vois. Donc ça, c'est cool parce que du coup, elles peuvent juste reproduire les inputs de manette qui ont été faits par le joueur exactement pour reproduire exactement le même move. Donc il y a ça.
Donc il n'y a pas d'apprentissage en tant que tel.
Mais par contre, j'ai vu un vrai truc d'apprentissage et ça, c'est insane, c'est pour le record du monde de flip reset d'affilée. Okay. Donc qu'est-ce que c'est un flip reset? C'est quand quand la balle, en fait, qu'est-ce qui fait que t'as le droit de faire un flip dans le jeu? En fait, dans le jeu, t'as le droit de sauter et t'as le droit de faire une rotation. C'est-à-dire, t'appuies sur la touche de saut et tu peux faire un coup dans la balle vers l'avant, vers les côtés, vers n'importe où. Et en fait, le jeu te redonne accès à cette mécanique à partir du moment où tes quatre roues touchent le sol. Donc, tu décolles, tu fais tes trucs et dès que t'atterris, t'as le droit à nouveau de refaire la mécanique de saut, tu vois. Mais en fait, tu peux trick le jeu en lui faisant croire que t'as atterri en touchant avec tes quatre roues la balle.
Ça s'appelle un flip
reset. Donc, en fait, à partir du moment où t'as mis tes quatre roues ont touché en même temps la balle, le jeu croit que tu viendras atterrir sur le sol et il t'autorise à refaire une rotation.
Évidemment, il y a des championnats du monde.
Voilà. Et du coup, il y a des mecs trop forts qui s'amusent à en faire 1, 2, 3 et en fait, ils restent dans les airs et ils font des jongles avec la balle. Et c'est extrêmement stylé. Et en fait, il y a une IA, et la vidéo doit être assez chaude à retrouver, je pense, qui se sert des variables de la distance par rapport à la balle et qui fait des flip reset à l'infini. Et elle remonte la balle à chaque fois.
Okay. Mais du coup,
et ça, c'est vraiment entraîné.
C'est ça. C'est que c'est vachement plus faisable parce qu'il y a un but très très précis.
Ouais, c'est ça.
On peut savoir faire des jongles avec la
balle. Mais du coup, son but, ça va être de toujours être au bon endroit par rapport à la balle et de la matcher et de la toucher avec une certaine façon. Parce qu'en fait, dès qu'elle la reset, elle se retourne, elle envoie la balle vers le haut et elle se repositionne en reset et elle fait ça en boucle.
Mmh. Une remarque hyper, hyper importante, je pense, dans le chat, c'est que c'est sur le mot intelligence artificielle.
Ouais.
Parce qu'effectivement, faut le préciser, c'est que dans un jeu vidéo, on appelle aussi une intelligence artificielle. Communément dans le langage,
un bot quoi,
un bot, ouais. Voilà, un ennemi qui n'est pas réel quoi.
Ouais.
Et ça, à mon avis, ça doit être je pense que c'est un tuto.
Non, c'est un tuto pour faire un flip reset ça.
Et donc faut bien préciser que quand on dit une IA dans un jeu vidéo, il y a pas forcément d'IA tel qu'on.
Non, mais si, il y a des bots quoi qui jouent contre toi.
C'est ça.
Mais bon, ils sont pas très forts et ils sont pas entraînés. Ils suivent un algorithme très basique qui dit si la balle est là, vous allez là, machin.
Il y a pas forcément de deep learning forcément.
Il y a pas eu. Je crois pas qu'il y ait. Alors si, ils sont en train de. Alors ça, il y a plein d'outils pour pouvoir coder sur le jeu. C'est trop bien. Ouais. Et alors moi j'ai jamais vraiment, je me suis vraiment jamais lancé là-dedans, mais il y a des mecs qui créent des bots capables de jouer en 1v1. Et en fait, actuellement, il y a des IA qui sont capables déjà, n'importe quelle balle dans les airs, de pouvoir la prendre avec la touche parfaite pour l'envoyer exactement où ils veulent, tu vois.
D'accord.
Donc déjà, ils ont commencé à coder des trucs sympas.
Il n'y a pas rien, c'est-à-dire qu'il y a des petites briques qui existent.
Ouais, c'est ça.
Plus tard, peut-être qu'on arrivera à avoir une super IA.
Par exemple, une fois qu'ils vont sur le mur, ils arrivent parfaitement à faire autant de flip reset qu'ils veulent. Ouais. Ils arrivent à faire des brisi flicks, c'est des mécaniques très précises. Ouais. En fait, dès que c'est de l'impot, ils y arrivent parfaitement, tu
ça
vois.
Est-ce que ça te fait rêver juste?
Mais je vois des moves comme ça, je me dis, mais c'est incroyable.
Ce n'est rien du tout.
C'est incroyable.
Ce n'est rien du tout.
Ce n'est rien du tout, mais pour moi, c'est tout.
C'est du plan.
Mais ouais, non, il commence à y avoir des dingueries. Donc là, c'était un reset, par exemple, il a récupéré son jeu, bon. Mais non, mais je te promets, dans peut-être, je pense, 6 mois, il y aura déjà des IA qui seront meilleurs, qui sont supersoniques légendes en 1v1, je pense.
C'est incroyable.
Combien de temps tu dis?
Dans 6 mois, non,
six
je pense.
Mois.
Ouais, je suis quasiment sûr.
Ah ouais.
Parce que
en 4 ans,
le 1v1, c'est du kick-off.
Ouais.
Donc le kick-off, s'il est maîtrisé parfaitement, et qu'en plus tu peux adapter ton kick-off au mouvement de l'adversaire, parce que tu sais l'intelligence artificielle,
pour expliquer très vite, du coup c'est
le dégagement,
le dégagement, comment commence le jeu, ça détermine.
Et quand t'es en 1 contre 1, il y a pas beaucoup de stratégie, quoi. Donc en 1 contre 1, je suis persuadé que l'IA va être capable de
d'ici 6 mois
toujours gagner son kick-off.
De savoir si ton pronostic va marcher.
Ensuite, sur un 1v1 pur, je suis sûr que pareil, elle peut estimer si la voiture est dans l'autre sens ou de face, si elle décolle ou pas, ouais, pour faire fake ou alors plutôt air dribble ou enfin tu vois.
On fera c'est moi, je propose très facile d'organiser un point dans 6 mois, un
ouais,
point
avec plaisir. Non mais franchement, à partir de maintenant, dès que je vois une vidéo d'IA un peu stylée sur Rocket League, je la prends et je la garde.
Let's go. Mais franchement, c'est passionnant comme sujet. Moi je c'est noté les 6 mois. Dit Gabin. c'est un des rares jeux que je connais un petit peu. Et du coup, je suis un peu l'état de l'art sur l'intelligence artificielle. Et en fait, je trouve ça fascinant. Alors que intuitivement, on pourrait se dire, c'est bon, maintenant, les IA, elles nous défoncent partout, dans n'importe quel jeu.
Pas sur Rocket League,
je t'en ai encore là.
Il y a des endroits où on ne sait pas faire. Où vraiment, voilà, il y a des gros problèmes encore à régler.
Non, parce que sur LoL, tu te fais fumer par un script très facilement. Une IA t'esquivera tous tes sorts facilement. Sur Dota 2,
c'est pour ça qu'il n'y a pas de cheat d'ailleurs sur Rocket League.
Ouais. Ah oui, exact.
Parce que
c'est trop compliqué. Ouais.
Tu ne peux pas. Ouais.
C'est fou de se dire ça. Alors on pourrait se dire que non, c'est bon, c'est fini, jeu vidéo maintenant.
Non, parce que c'est trop précis en fait.
Et non.
Par exemple, tu pourrais avoir une touche qui te permet de faire un. Donc, ce que je disais, le Breezy Flick, c'est une mécanique super stylée qui te fait retourner ta voiture d'une façon très précise et tout. Mais en fait, non, parce que si t'es légèrement à droite ou légèrement à gauche, c'est pas du tout les mêmes impacts.
Ça fausse tout le résultat.
Donc, impossible.
Hyper intéressant. On passe à la dernière question. Nous avons une surprise pour le chat. Ah. Petit A, un Discord est en place. Petit B, on découvre notre trophée 100 000 abonnés en direct. Petit C, on vous tease une grosse annonce pour lundi prochain. Petit D, on débauche Sardoche.
Ah, je le sais, je le sais.
À votre avis.
Moi qui suis sur place, je le sais.
Vas-y.
Je verrais bien un petit B déjà.
Ouais.
Je verrais bien un A parce que pourquoi pas mais faire un Discord. Hein. Je verrais bien un C parce que pourquoi pas faire une annonce pour lundi prochain. Et peut-être le D, hein, peut-être le D aussi.
Pourquoi pas, hein.
Ouais, pourquoi pas.
La réponse, mesdames et messieurs, ce n'est pas A. On ne fait pas de Discord. C'est le truc qu'ils nous avaient demandé depuis 5 ans. Par contre, c'est B, C et D.
Incroyable.
On va ouvrir notre trophée.
Quel plaisir.
Qui est présent ici, mesdames et messieurs. On vient de le recevoir. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que sur la chaîne YouTube d'Underscore, on a dépassé les 100 000 abonnés.
Bah, félicitations.
Bravo.
Et ça, c'est beau. Est-ce que tu veux le faire? Pendant
écoute,
que
écoute,
pendant que je présente la suite,
t'as une grande annonce du coup.
Et on en petit teasing parce que voilà, ils découvriront le jour J, mais effectivement lundi on va lancer quelque chose qui a rapport avec nos productions sur internet. Donc stay tuned, on va balancer ça sur la chaîne de beaucoup de GG dans le chat. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. On va lancer ça, enfin on va vous teaser ça sur la chaîne YouTube de Underscore. N'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Underscore et à vous abonner, n'est-ce pas? Et voilà, et on vous balancera ça lundi. Ce sera méga cool. Et voilà, j'ai rien oublié. Dans les trois. Quel boss. Attention, la petite lettre des familles signée en personne par le président de YouTube, n'est-ce pas?
Ouais, le patron.
C'est fou. Hein. S'il y avait le moindre doute. Et le beau trophée. Ça fait plaisir.
C'est propre.
Ouais, franchement, c'est les nouveaux alors. Moi, j'avais eu l'ancien. Je me souviens à l'époque, ils avaient un autre look. Mais voilà, ça ressemble à ça. Ça brille de mille feux.
Oh, super.
Oh, ça,
très 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 stylé. Je vais je vais récupérer Gabin, voilà, ça. Avec l'auto-caméra. Et donc, on a hésité, vous savez, on peut customiser le nom maintenant.
T'as mis quoi?
J'ai mis Underscore.
Bon, parfait.
On peut mettre des, on peut troller, on peut mettre des trucs débiles.
Oui, bien sûr.
Je me suis retenu. Surtout qu'il paraît que maintenant, il vérifie. C'est une époque où vraiment, tu pouvais mettre n'importe quoi. Tu pouvais insulter des darons sans aucun problème. C'est une ère évolue. Merci donc à vous pour votre soutien sur la chaîne YouTube. Ça fait trop plaisir. Ça nous motive à continuer ce qu'on fait, tout simplement. À améliorer petit à petit les lives. Récemment, on a, voilà, on a changé tout le son. C'est pas encore parfait. On a encore des retards sur les trucs. On bosse encore les formats. Voilà. Donc, la D. Ah, c'était quoi la D? J'ai oublié la D.
On débauche.
On débauche, Sardin.
Tu me débauches?
Bah, let's go. Qu'est-ce que t'en dis?
Franchement, en ce moment, je suis free agent en plus, là.
Bah écoute, Sardoche sur Underscore.
Non, mais, non, mais en vrai, degré, plaisir
on
de.
Est hyper chaud de t'avoir. Si, voilà, si mercredi soir, t'as du temps, tu viens chez nous, tu es le bienvenu.
Non, mais c'est trop cool, franchement, j'adore parler de tous ces sujets. Donc, quand tu veux, tu me dis.
Bah écoute, tu es calme. On en discute, je vois que le chat est déter aussi. Pour ceux qui demandent pour balle perdue, même chose. C'est comme la dernière fois, c'est décalé. Mais ça revient très vite, vous inquiétez pas, ça arrive. Est-ce que j'oublie des choses? Non, voilà, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, n'est-ce pas, Spotify, etc., sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch si vous avez passé un bon moment. On voit que je suis en train de fatiguer. C'est une magnifique émission. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Bah bien sûr.
Au top, franchement, nickel.
Justin. Bon, la détente était prévue, elle est là. Voilà.
Bah c'est nickel. On retrouve Justin sur ton Twitch, évidemment.
Bien sûr.
Sardoche sur Twitch.
C'était top, ouais. Franchement, super. En plus, c'est vraiment agréable.
C'est chill, hein.
J'aime bien la couleur.
Bah, et tu prévois un petit débrief, peut-être, Z-Event?
Ah ouais, j'ai toujours pas fait. En fait, j'avais la flemme de tout installer, je vais pas te mentir. Et puis, je rentre demain soir, sur twitch.tv/sardoche, ouais.
Excellent. On retrouve Sardoche sur son Twitch. Merci également au sponsor Atrade Republic de nous avoir soutenus aujourd'hui. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Underscore. Salut, bonne soirée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.